6h57, bon réveil à tous, j'étais ravi de vous accompagner depuis 5h et je laisse la place avec plaisir à Sébastien Krebs. Bonjour mon cher
Bonjour
Sébastien.
Bonjour Mathieu Charrier, merci de nous avoir réveillés depuis 5h du matin. À demain.
À demain.
Et bonjour, bonjour à vous tous. J'espère que vous êtes en forme en ce mardi matin, 22 décembre 2020. Tiens, je voudrais commencer avec, avec un sourire, une voix venue du Grand Nord.
Minulla on teille loistavia uutisia.
C'est la voix du Père Noël qui nous envoie quelques mots depuis la Laponie et voilà ce qu'il nous dit. Vous avez remarqué, c'est en finnois. Il a une merveilleuse nouvelle, Noël arrive, mais n'oubliez pas d'être gentil et d'en profiter de manière sûre et appropriée. Voilà, ce sont des vœux tout à fait adaptés à cette année particulière. Le Père Noël bien seul dans son village de Rovaniemi, qui ne connaît pas l'affluence touristique habituelle en cette période. Voilà pour ce clin d'œil. Le réveillon dans 2 jours. Et au programme de cette matinale, le retour d'un visage de la télévision. Frédéric Courant était Fred dans C'est pas sorcier, l'émission qui expliquait la science aux enfants. Eh bien, c'est aux adultes aujourd'hui qu'il veut l'expliquer. Mieux sensibiliser, mieux préparer les Français aux risques climatiques et environnementaux. Voilà la mission qu'il a accepté de mener pour le compte du ministère de la Transition écologique. Il vient nous expliquer comment il compte s'y prendre dans le tête-à-tête Europe Matin tout à l'heure à 7h40. Et puis les réseaux sociaux, une nouvelle fois en accusation, déferlement antisémite contre Miss Provence depuis samedi soir.
C'est la première fois que je dois faire face à ce genre de propos. J'ai décidé de porter plainte. Il ne faut pas que ça s'arrête là et il faut qu'on puisse sensibiliser encore les gens à ce genre de choses.
Le parquet de Paris ouvre une enquête. Il ne faut pas que ça s'arrête là, dit April Benayoun. À 8h15, la ministre de l'égalité entre les femmes et les hommes, Elisabeth Moreno, sera mon invitée politique. Elle qui tente aussi de faire exister au sein du gouvernement des sujets comme la lutte contre les discriminations, la diversité, l'égalité des chances. Pas si évident dans ce contexte très sécuritaire. Bienvenue à vous sur Europe 1. Tout de suite la météo. Bonjour Laurent Cabrol.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous, rebonjour à tous. Vous qui avez des connaissances particulières avec le Père Noël, il vous a parlé. Il vous a dit que le froid arrivait, il vous a dit que...
Alors il ne parle pas de météo dans ce message, mais il dit que Noël arrive, en revanche, ça arrive. C'est sûr.
Ben, Noël arrive dans son sens large, puisque nous allons avoir finalement à partir du 24 décembre, une descente d'air froid qui va vraiment nous faire changer de saison, au point que par exemple cet après-midi il fera entre 14 et 18 degrés, et là nous allons perdre en l'espace de 48 heures, eh bien 5, 6, 7, 8 degrés et nous nous retrouverons avec des températures normales pour la Noël, avec de la neige dans les régions de l'Est, vraiment un temps de Noël et ce le 24, 25, 26, 27, après un petit redout légèrement pas 27, 28 un petit redout et encore le froid va se reposer sur nous en début de l'année prochaine, donc vous voyez que le froid n'a pas fini et que nous avons certainement changé totalement de type de temps, quand aujourd'hui c'est de la pluie au nord et des soleils, en tout cas les éclairs. Merci au sud.
Voilà, on vous retrouve de toute façon juste avant 7h30 pour plus de détails. Merci Laurent Cabrol, à tout à l'heure. Tout de suite le journal. Bonjour Émilie Dez.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
Il est 7h.
Et particulièrement gênant, c'est qu'on est vraiment dans le coup de feu, là. Quelques heures de retard, on n'est pas au rendez-vous de Noël. Bon, c'est comme si on vous livrait des œufs de Pâques au mois de juillet, quoi.
L'inquiétude des professionnels de pêche qui craignent de ne pas avoir suffisamment de produits frais pour approvisionner les tables du réveillon de Noël après la suspension des liaisons entre la France et le Royaume-Uni. Mais Boris Johnson se veut rassurant. L'Union européenne a donné son feu vert au vaccin Pfizer-BioNTech. Les premières vaccinations devraient avoir lieu dès dimanche en France, avec beaucoup de questions encore dans les EHPAD, notamment autour du consentement des premiers vaccinés. Dans ce journal, nous irons à la frontière franco-suisse où des contrôles sont effectués auprès des Français tentés d'aller skier malgré les risques d'amende. Et puis, le casse-tête de Noël pour les familles recomposées. Certaines ont déjà commencé les fêtes et les prolongeront jusqu'en janvier.
À suivre après le journal Bruxelles qui valide la naissance d'un mastodonte, la fusion PSA Fiat Chrysler, l'éclairage écho de Daniel Fortin, Vincent Hervouet et son regard international. Et puis un chiffre, 200 millions de dollars, c'est le montant pour lequel le basketteur Rudy Gobert a signé en NBA américaine. Il devient le sportif français le mieux payé de l'histoire et il ne faut pas s'en indigner, nous dira Virginie Fulpin dans son édito sport. Sans oublier Stéphane Bern pour parler d'histoire. Très bon réveil.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Vous les avez sans doute vus, ces images de dizaines de camions bloqués côté anglais après la décision de la France et de plusieurs autres pays européens de suspendre les liaisons avec le Royaume-Uni. Mais le Premier ministre britannique Boris Johnson se veut rassurant.
Je viens de parler au président Macron, ça s'est très bien passé. On comprend les positions de chacun et on veut régler ces problèmes aussi rapidement que possible pour permettre au transport de cargaison de reprendre entre le Royaume-Uni et la France. Et comme l'ont dit les supermarchés, leurs chaînes d'approvisionnement sont solides et robustes. Donc tout le monde peut continuer à faire ses courses normalement.
Rassurant donc, Boris Johnson, mais pas suffisamment pour les professionnels de la pêche.
Et de notre côté de la frontière, ils craignent de ne pas recevoir tous les produits frais qu'ils devaient vendre pour Noël. Aurélien Fleurot.
Il y avait déjà les incertitudes liées au Brexit, les commandes qui ont tardé à cause de la situation sanitaire, et voilà maintenant les camions qui ne peuvent plus traverser la Manche. 72 heures avant Noël, difficile de faire pire, se désole Aymeric Chan, secrétaire général du syndicat des mareyeurs de Boulogne-sur-Mer.
Ce sont essentiellement des fruits de mer, hein, ce qui va être langoustine, un peu de coquille Saint-Jacques, l'alotte. Bon, c'est pas mal de produits festifs, un petit peu de saumon. Ce qui est particulièrement gênant, c'est qu'on est vraiment dans le coup de feu, là. Quelques heures de retard, on n'est pas au rendez-vous de Noël. Bon, c'est comme si on vous livrait des œufs de Pâques au mois de juillet, quoi.
Heureusement, toute la production ne vient pas du Royaume-Uni. La pêche locale et puis les importations de l'Europe du Nord fonctionnent, mais c'est précisément en ce moment la période où cet apport venant d'outre-Manche est absolument nécessaire. Donc il n'y a pas de pénurie, mais certains étals ne seront pas aussi remplis qu'espérés.
Si nos consommateurs veulent être certains d'avoir du produit sur leur table de Noël, il ne faut peut-être pas trop tarder. L'essentiel est quand même passé de justesse, mais il nous reste plusieurs dizaines de camions qui sont restés coincés du côté britannique, et en particulier au niveau de Douvres.
Et même si l'interdiction a été levée demain matin, avec toute la logistique, la préparation des produits, ce serait trop tard pour arriver à temps jusqu'aux clients et assurer toutes les commandes.
Aurélien Fleurot pour Europe 1.
Le Royaume-Uni mis sous cloche depuis la découverte d'une nouvelle souche du coronavirus.
Une variante hors de contrôle selon le ministre de la Santé britannique, mais l'Organisation mondiale de la Santé rassure, rien ne permet encore de l'affirmer selon le responsable des situations d'urgence sanitaire.
Le vaccin Pfizer-BioNTech, qui vient de recevoir le feu vert de la Commission européenne, devrait être efficace contre cette nouvelle souche du virus.
En France, comme dans tout le reste de l'Europe, les premières vaccinations vont pouvoir débuter dès ce week-end, selon le ministre de la Santé, Olivier Véran. Anne Le Gall s'est rendue dans un EHPAD du Val-de-Marne où beaucoup de questions se posent encore, notamment autour du recueil du consentement des futurs vaccinés.
Oui, avec les guirlandes bleues qui clignotent dans l'entrée, pour le moment, les 210 résidents de cet établissement sont plus portés sur les fêtes de Noël que sur le vaccin. À 96 ans, Henri Courtès n'a d'ailleurs pas l'intention de se faire vacciner, même si son médecin l'y a encouragé.
J'ai réfléchi et c'est non, hélas. Parce que je trouve que les laboratoires se font une guerre entre eux, là, pour aller le plus vite possible. Donc c'est une question souvent de soit de dollars, soit d'euros. Et on en reparlera si c'est bien.
Et c'est le même attentisme du côté des soignants. Pour Romain Gisolme, qui dirige l'ADEPA, l'association des directeurs de maisons de retraite, dans l'attente du feu vert officiel pour le vaccin, impossible de toute façon d'organiser les visites médicales, de demander les consentements, on manque d'informations.
Il semble qu'effectivement l'essentiel des structures puisse s'engager une fois la période de fête passée, et puis surtout une fois les recommandations de l'État bien établies pour permettre effectivement la mise en place pratico-pratique.
En clair, l'image des premières injections, on l'aura donc sans doute le 27 décembre comme annoncé, mais de façon symbolique, ce ne sera pas le cas dans les 10 000 établissements du territoire.
Et aux États-Unis, le président élu Joe Biden s'est lui fait vacciner hier en direct à la télévision.
À quelques jours des fêtes, une question se pose. Quelles vont être les conséquences de la levée du confinement en France?
Le CHRU de Nancy n'est pas optimiste. S'appuyant sur un outil qui permet de modéliser l'épidémie, il laisse craindre un nouveau rebond après les vacances de Noël. Mélina Fachin.
Les nouveaux cas d'infection sont toujours plus nombreux chaque jour. Et en regardant grâce à cet outil les courbes du R0, l'indicateur du taux de transmission du virus, Christian Rabot, infectiologue et président de la commission médicale d'établissement du CHRU de Nancy, craint en effet une troisième vague.
D'ici à la rentrée scolaire, quelque part le 4 janvier, il pourrait y avoir jusqu'à 500 patients de plus en réanimation qu'aujourd'hui en France, c'est-à-dire passer de 2008 à 3003 ou 3004.
Or, dans certains hôpitaux, comme ceux de Nancy, très éprouvés lors de la première vague, on frôle déjà la saturation.
Chez nous, effectivement, sur ce week-end, pour pouvoir prendre en charge les patients qui sont présentés à l'hôpital, même pas en réanimation, simplement prise en charge il a fallu démonter des parties de l'hôpital pour les remonter dans la prise en charge du patient Covid.
On peut toujours inverser la tendance, explique le professeur Rabot, si on fait très attention durant les fêtes, mais cet outil de projection avait déjà bel et bien prédit les deux premières vagues.
Mélina Fachin, correspondante d'Europe 1 dans l'Est de la France.
Et pour éviter cette troisième vague, beaucoup de Français vont jouer la prudence, et notamment les familles recomposées pour qui Noël tourne au véritable casse-tête.
Avec beaucoup de règles à prendre en compte, pas plus de 6 à table, des repas dans plusieurs branches de la famille et les personnes âgées à préserver, Lorraine habite au Mans. Pour pouvoir tout respecter, elle a déjà lancé les festivités, Damien Mestre.
3 demi-frères, 2 belles-sœurs, 4 neveux et ça rien que du côté de la mère. En tout, c'est plus d'une vingtaine de personnes que Lorraine a l'habitude de voir à Noël. Alors cette année, il a bien fallu être créatif.
On commence le 21 et on finira le 9 les hostilités parce qu'effectivement, on est obligé de faire par petits groupes.
Des festivités qui ont commencé. Hier et pendant 3 semaines, ce sera gel hydroalcoolique, petite tablée bien séparée et puis surtout un changement dans les horaires, couvre-feu oblige.
On a été invité, mais on est arrivé à 16h. Une table magnifique avec plein de choses à manger.
Antoine, le demi-frère, y voit finalement des avantages.
Bah, à goûter, les enfants, j'ai envie de dire, ils préfèrent ça à un repas au restaurant où ils sont obligés de rester assis toute la journée. Ils sont moins fatigués. Non, c'est pas plus mal.
Plusieurs goûters prévus pendant les vacances.
Je sais pas combien, mais je crois qu'on va en faire plein.
Et finalement, même s'il n'y aura pas de grand réveillon le 24, l'essentiel est peut-être bien ailleurs.
Avant, bah, y avait beaucoup le Covid et du coup, on pouvait pas trop voir les autres personnes. On a de la chance de pouvoir de déconfiner.
L'occasion aussi de voir passer plusieurs fois le Père Noël.
Un reportage Europe 1 de Damien Mestre.
Alors vous le savez, pendant ces congés de Noël, les domaines skiables sont fermés, mais quelques Français ont décidé de braver l'interdit pour aller dévaler en Suisse les pistes pour les fêtes.
Hélène Terzian, vous êtes à la Ferrières-sous-Jougne, un poste frontière entre la France et la Suisse, et dans le Doubs. Hélène, la police aux frontières est en train de contrôler les véhicules.
Oui, et il faut avoir l'œil, hein, parce qu'ici, c'est un flot continu de voitures qui passent depuis 5h du matin. Il y en a 30 000 tous les jours dans les deux sens. Philippe, policier aux frontières, arrête quelques véhicules de façon aléatoire dans le sens France-Suisse.
C'est vraiment, si on voit plusieurs personnes dans une voiture, on peut soupçonner qu'ils partent en vacances ensemble. Bonjour, messieurs.
Bonjour, messieurs.
Vous avez le travail?
Oui.
D'accord. On vérifie si vous partez pas en vacances, si vous n'avez pas de matériel de ski ou...
Non.
Non?
Pas de vacances, vous voulez fouiller le coffre?
Non,
pas de vacances, on va au travail les deux.
Okay.
Merci.
Bonne fête à vous.
Depuis ce week-end, les policiers multiplient ces contrôles. Il s'agit surtout pour l'instant de faire de la pédagogie en flyer et distribuer à ceux considérés comme des vacanciers passant la frontière pour leur rappeler les gestes barrières. Mais attention, à partir de ce week-end, lorsque davantage de Français entreront des stations suisses, eh bien Jean-Michel Comte, directeur interdépartemental de la police aux frontières de Pontarlier, explique qu'un test de moins de 72 heures leur sera demandé.
Au retour des stations, ils se doivent de prouver qu'ils n'ont pas le virus, par tout moyen. Et s'ils ne peuvent pas le prouver, l'agence régionale de santé présente en frontière leur fera un test pour leur indiquer, 72 heures plus tard, s'ils sont impactés par le virus, auquel cas ils devront s'isoler.
Voilà, ce sont des consignes passées par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, à tous les préfets transfrontaliers entre la Suisse, mais aussi l'Espagne, pour se tenter d'aller skier aussi de l'autre côté des Pyrénées.
Hélène Terzian à la Ferrières-sous-Jougne, dans le Doubs pour Europe 1.
Oui, on comprend que c'est le retour qui va être plus compliqué que l'aller pour aller skier côté Suisse. 7h10 sur Europe 1, une enquête ouverte pour incitation à la haine raciale, ouverte à Paris après les tweets antisémites qui ont visé Miss Provence samedi soir.
Des tweets postés après que la première dauphine de Miss France 2021 a révélé que son père était d'origine israélienne, le gouvernement a sommé Twitter de supprimer ses messages.
Et la ministre de l'égalité entre les femmes et les hommes sera mon invitée politique hein, tout à l'heure à 8h15 sur Europe 1. C'est à n'en pas douter le loisir hein, de cette année. On n'a jamais autant joué aux jeux vidéo qu'en ces mois de confinement.
Et notamment aux plus populaires d'entre eux, Fortnite. 250 millions de joueurs dans le monde. D'habitude, ils s'affrontent les uns les autres. Mais en ce moment, ils visitent les châteaux de la Loire. Des châteaux de la Loire qui ont appris hier qu'ils restaient fermés encore 3 semaines, Clément Le Saffre.
Oui, et ça se passe à Chambord, La Valette, Amboise, Chaumont-sur-Loire. Ces châteaux ont été modélisés avec précision dans Fortnite. Chaque vendredi jusqu'au 8 janvier, l'un d'entre eux est dévoilé lors d'une émission en direct sur Twitch avec, en guise de Stéphane Bern 2.0, Nota Bene, un youtubeur spécialiste de l'histoire.
Les pierres qu'il ramenait pour construire le château, il les faisait passer par l'eau, c'est ça ?
Alors en fait, ça part de plusieurs carrières qui sont disséminées un petit peu partout dans la région ou ailleurs. Ça arrive par les fleuves. C'est déposé au port de Saint-Dié, qui est à 4 km.
Et ce sont donc des millions de joueurs qui vont arpenter les jardins pixelisés des châteaux de la Loire. Pour François Bonneau, président de la région Centre-Val de Loire, ce partenariat est une opportunité unique d'attirer de futurs visiteurs.
Ça permet de faire se rencontrer des gens qui ne seraient jamais venus de l'un à l'autre, c'est-à-dire des passionnés d'e-sport. C'est une tranche d'âge qu'on ne trouve pas dans nos sites aujourd'hui.
Mais ce n'est pas juste du tourisme. Fortnite reste un jeu, bien sûr. Dans chaque château, une course de vitesse est organisée. Il faut collecter un maximum de pièces en 5 minutes. Les joueurs qui font le meilleur temps s'affronteront lors d'une finale le 15 janvier sur la carte du château du Clos Lucé, dernière demeure de Léonard de Vinci.
Et Clément Le Saffre pour Europe 1.
Voilà, on voyage aussi dans les jeux vidéo. C'était le journal d'Emily Dez sur Europe 1, 7h12.
Europe Matin, le 7-9. Sébastien Krebs.
Est-ce que vous vous souvenez de ce générique ? C'est une émission de télé qui a accompagné quelques générations d'enfants. Hein. C'est pas sorcier. Pendant plus de 20 ans, c'était la science rendue accessible à tous avec un duo très connu, Jamie et Fred. Et Fred, c'était Frédéric Courant. Aujourd'hui, ce n'est plus seulement aux enfants qu'il explique la science. Il a accepté une mission pour le compte du ministère de la Transition écologique. Réfléchir à comment mieux préparer les Français, comment mieux nous préparer aux risques climatiques, aux risques environnementaux, industriels, comment mieux nous former. Aurait-on par exemple pu mieux faire face à l'incendie de Lubrizol ou encore face à la tempête Alex ? Ce sont toutes ces questions qui se posent. On va en parler dans le tête-à-tête Europe Matin tout à l'heure avec lui, avec Frédéric Courant à 7h40. Mais d'abord l'éclairage éco, Daniel Fortin et un nouveau géant dans l'automobile. Le quatrième groupe mondial va voir le jour, PSA, Fiat, Chrysler. Bon réveil, à tout de suite.
Europe Matin, le 7-9, Sébastien Krebs.
À 7h16 sur Europe 1, l'éclairage éco avec Daniel Fortin, rédacteur en chef au journal Les Échos. Bonjour Daniel.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
C'est officiel, Bruxelles a donné hier son feu vert à la fusion entre PSA et Fiat Chrysler. Le nouveau numéro 4 mondial de l'automobile est pratiquement né.
Oui, il faudra attendre le 4 janvier, date de l'Assemblée Générale des deux groupes pour que les actionnaires approuvent l'opération. Mais ça ne sera qu'une formalité, donc oui, tout est prêt pour un mariage à 50-50. Le nouveau groupe s'appellera Stellantis, ils vendront 8,7 millions de véhicules dans le monde pour un chiffre d'affaires de 184 milliards d'euros. C'est donc un mastodonte qui sera présent sur toute la gamme de l'automobile avec pas moins de 16 marques. Alors on ne va pas toutes les citer, mais avec Fiat, Peugeot, Chrysler bien sûr, mais aussi Citroën, Opel, Jeep, Alfa Romeo ou encore Maserati. Le catalogue est impressionnant.
C'est plutôt un heureux événement dans ce contexte où le marché automobile s'effondre.
Oui, alors c'est un hasard de calendrier, mais le tempo est en effet idéal pour un tel mariage. Il faut savoir que le Covid va coûter très cher au secteur automobile, bien plus cher que la crise de 2008. Les ventes devraient chuter de 16% cette année, avec 76 millions de voitures vendues dans le monde. C'est presque 20 millions de moins que le record de 2017. Et ce sera difficile à remonter dans ce contexte. Seuls les grands groupes peuvent s'en sortir, car ils sont présents sur tous les marchés et ils peuvent amortir leurs gigantesques dépenses de recherche sur davantage de volume.
Finalement, les groupes français ne sont pas si mal placés dans la course à la taille qui s'annonce.
C'est vrai, car si on parle de PSA aujourd'hui, il ne faut pas oublier Renault. Certes, l'arrestation puis l'évasion de l'ancien PDG Carlos Ghosn a jeté une ombre sur l'alliance formée par le français avec Nissan et Mitsubishi. Mais elle existe bien, cette alliance, et dans le contexte actuel, aucun de ces trois constructeurs n'a intérêt à voir le mariage capoter ensemble. Ils produisaient l'an dernier plus de 10 millions de voitures. Donc aujourd'hui, on a deux groupes automobiles français qui jouent un rôle de premier plan dans deux des plus grandes galaxies mondiales. C'est une position plus qu'enviable pour envisager la suite.
L'éclairage éco-signé Daniel Fortin. Merci. Et je salue Vincent Hervouette. Bonjour Vincent.
Bonjour Sébastien.
Votre regard international, et vous nous parlez ce matin de Nathan Lau, l'une des grandes figures de la lutte pour la démocratie à Hong Kong et qui demande l'asile politique à Londres.
Alors on comprend qu'il fuit Hong Kong, mais quelle idée de s'installer à Londres à l'heure où le Brexit et l'épidémie de coronavirus obligent les Britanniques à se barricader à la maison, l'exil dans une île en quarantaine coupée du monde, on dirait Sainte-Hélène. Nathan Lowe avait le choix, c'est une vedette, un vétéran du combat politique avec une tête de bon élève. En 2014, à 21 ans, il était l'un des leaders du mouvement des parapluies, 2 mois et demi, a occupé le centre de Hong Kong pour réclamer la démocratie. En 2016, il a été le plus jeune élu de l'histoire du Conseil législatif. En 2017, il a été destitué. En 2018, il a été emprisonné. En 2019, il a relancé la mobilisation pour empêcher Pékin de mettre la ville au pas.
En vain, hein, puisque la loi sur la sécurité nationale a bien été adoptée en juin dernier.
En effet, elle réprime la subversion, la sécession, la collusion avec l'étranger au même titre que le terrorisme. Il y a eu 10 000 arrestations. Democisto, le parti que présidait Nathan Lowe, a été dissous et c'est alors qu'il s'est enfui. Les leaders étudiants étaient 4, comme les 3 mousquetaires. Il est le seul encore en liberté.
Et le Premier ministre britannique, Boris Johnson, lui a ouvert les bras ?
Alors Bojo a riposté au coup de force de Pékin en offrant un visa de 5 ans à tous les titulaires du passeport britannique d'outre-mer. Avec Nathan Lowe, il s'en mordra peut-être les doigts. Le nouveau sujet de Sa Majesté pense que l'Europe est le ventre mou des démocraties face à la Chine. Ce n'est pas le goût des parapluies qui l'a amené à Londres, c'est pour ôter aux Européens l'illusion que la Chine peut être un partenaire stratégique. Pour les réveiller de leur torpeur, qu'ils prennent conscience que le Parti communiste chinois est un danger pour le monde démocratique, que la route de la soie est pleine d'épines. À Washington, la ligne dure fait consensus, pas en Europe, où l'on cède aux intérêts économiques à court terme. Et à l'heure où Huawei choisit l'Alsace pour installer sa première usine à l'étranger, eh bien Nathan Lowe, lui, veut démasquer la Chine.
Nathan Lowe, donc cet opposant, figure de la lutte pour la démocratie à Hong Kong et futur réfugié politique à Londres. Le regard international de Vincent Hervouette sur Europe 1, 7h21. À suivre, un chiffre qui a secoué la planète basket. 205 millions de dollars sur 5 ans. Le contrat signé par le basketteur Rudy Gobert en NBA américaine. C'est simple, il devient le sportif français le mieux payé de l'histoire. Et non, ce n'est pas un braquage, va nous dire Virginie Fulpin. L'édito sport à suivre avant de retrouver Stéphane Bern. À tout de suite.
Europe Matin, le 7-9, Sébastien Krebs.
Il est 7h24 et c'est l'heure de retrouver Virginie Fulpin pour l'édito sport. Bonjour Virginie.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
Alors c'est l'ouverture de la saison de la NBA aux États-Unis et le joueur dont tout le monde parle est français. Rudy Gobert a signé un contrat de plus de 200 millions de dollars avec les Utah Jazz. Il devient le sportif français le mieux payé de l'histoire, mais il subit de nombreuses railleries. Et pourtant, pour vous Virginie, son salaire, hein, en euros, ça donne quand même 33 millions d'euros par an. Son salaire est certes énorme, mais finalement, il est assez logique.
C'est-à-dire que si on veut faire la révolution et mettre à bas le sport business, pourquoi pas hein. Mais dans ce cas-là, c'est à la NBA tout entière qu'il faut s'en prendre, pas au contrat de Rudy Gobert. Bon, plus sérieusement, la NBA a considérablement accru ses revenus ces dernières années, et ce genre de contrat mirobolant ne fait finalement que suivre la croissance des droits télé du basket américain notamment. Donc oui, c'est assez logique. Mais il y a quand même des railleries et des deux côtés de l'Atlantique. Aux États-Unis, on dirait que le fait que ce soit un Français qui devienne le pivot le mieux payé de l'histoire est un crime de lèse-majesté. En plus, Rudy Gobert a perdu pas mal de crédit au mois de mars hein, avec ses blagues douteuses sur la psychose autour du Covid. 2 jours plus tard, il était testé positif et la NBA s'arrêtait. Et il y a des fans qu'il considère encore aujourd'hui comme le responsable de ce lockdown. On va peut-être se calmer un peu. Hein. En France, on a toujours un problème pour parler d'argent, surtout en période de crise. Quoi, Rudy Gobert va avoir le même salaire que Bernard Arnault ? Bon, ça n'a aucun sens, hein, ce genre de comparaison. Et puis, à part les passionnés, finalement, la NBA, on la maîtrise pas si bien que ça. On connaît des grands noms, LeBron James, Michael Jordan, Tony Parker. Mais on se dit que Rudy Gobert ne fait pas partie de ces stars-là. Du coup, il y a plein de gens qui ont l'impression que le Français vient de faire un braquage dans son club.
Alors que pour vous, c'est tout sauf un braquage.
Rudy Gobert est tout simplement le meilleur à son poste. Donc ça se paie, oui, il ne marque pas 30 points par match, d'accord, mais il n'est pas là pour ça. Son rôle de pivot, c'est d'abord de défendre. Et il a été élu 2 saisons de suite meilleur défenseur du championnat. Il est reconnu par tous ses pairs. Ça fait 7 ans qu'il est dans son club de l'Utah, donc ils ne font pas un pari venu de nulle part. Hein. Ils savent sur quoi s'appuyer. Rudy Gobert fait gagner son équipe et il fait vendre aussi. C'est son visage qui apparaît sur toutes les pubs diffusées dans la salle avant les matchs. Faire gagner et faire vendre, ça fait forcément un gros contrat. Rudy Gobert et le Utah Jazz ont donc une ambition commune, gagner le titre NBA. C'est maintenant qu'il va falloir montrer que s'il a de larges épaules, c'est pas juste pour faire le ménage sous les paniers, hein, mais aussi pour résister à la pression. S'il n'y arrive pas, on pourra critiquer. Mais pas pour l'instant.
Pas pour l'instant, ce n'est pas un braquage, dites-vous. Virginie Fulpin, l'édite au sport. Et j'ajoute une information foot, Virginie. Marcus Thuram, 5 matchs de suspension en Bundesliga après son crachat samedi dernier sur un autre joueur. C'est pas forcément du plus bel effet pour lui qui venait de faire son entrée chez les Bleus.
Chez les Bleus, oui. Est-ce que ça va compromettre son euro ou pas? C'était Didier Deschamps qui nous le dira, mais plus tard.
À demain, 7h26. C'est l'heure de retrouver Stéphane Bern pour parler d'histoire. Bonjour Stéphane.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous. Je voulais ce matin rendre un hommage appuyé à celle que nous allons bientôt croiser. Enfin, pour ceux qui auront cette chance, je vais parler de la dinde de Noël. Comme je ne suis pas chroniqueur gastronomique, je voulais me pencher sur l'expression « être le dindon de la farce ».
Être le dindon de la farce, bah c'est celui qui se fait avoir, dont on se moque généralement.
Il existe plusieurs explications à cette expression. Une toute simple. Au Moyen-Âge, on jouait les pièces comiques qu'on appelait « farces ». Les personnages crédules, dont on se moquait régulièrement dans ces histoires, étaient surnommés les pères dindons. Ils devenaient ainsi les dindons de la farce. Mais problème, les vrais dindons que nous connaissons ne viendront du Mexique qu'au XVIe siècle. Il semblerait alors que l'origine véritable de la formule vienne d'un spectacle forain. À Paris, de 1739 à 1844, il existait un spectacle assez immonde qui consistait à mettre des dindons vivants sur une grande plaque métallique chauffée progressivement. Les pauvres gallinacés finissaient par produire une danse ridicule pour éviter de se brûler. Mais alors, pourquoi dire la farce ? En fait, l'explication serait beaucoup plus simple. La dinde, avant de passer à la casserole, tout comme celui qui se fait avoir, se fait plumer. N'oublions pas non plus que la dinde a longtemps désigné de façon peu élégante les filles un peu naïves à qui on faisait de belles promesses pour mieux les détrousser elles aussi. Terminons par une expression hollandaise, là-bas on ne dit pas être le dindon de la farce mais être pièce patchazing, comprenez être le poteau contre lequel tout le monde fait pipi. C'est pas chic mais au moins ça le mérite d'être.
Je salue votre accent hollandais qui est parfait Stéphane Bern. On vous retrouve tout à l'heure à 16h avec Mathieu Noël.
Oui, on réunit trois personnages qui ont vécu cachés dans l'ombre d'un géant. Le père Joseph, l'éminence grise du cardinal de Richelieu, Auguste Maquet qui a écrit avec Alexandre Dumas et un peu moins bien caché, faut l'avouer, René Angelil derrière la frêle Céline Dion. Bref, on vous raconte l'histoire sans se la raconter avec Mathieu Noël tout à l'heure de 16h à 18h sur Europe 1.
À tout à l'heure Stéphane Bern. 7h29, c'est l'heure de la météo, Laurent Cabrol.
Eh bien on commence par les mauvaises nouvelles. Allez, la pluie pour ceux d'entre vous qui habitent la Manche, la Champagne-Ardenne, la Lorraine, l'Alsace, les Pays de la Loire, l'Orléanais, la région parisienne et la Bourgogne. Il y aura encore de la pluie comme hier dans toutes ces contrées. Alors que l'amélioration va se dessiner sur le Poitou-Charentes, le Limousin, l'Allier, la Nièvre et la Franche-Comté, donc sur la partie, une sorte de partie centrale un peu du pays. Et dans le sud, dans le sud-ouest, tout le sud-ouest, Aquitaine, Midi-Pyrénées, etc. L'Auvergne, la région Rhône-Alpes et le bassin méditerranéen. Ce sera non pas un soleil rayonnant, mais enfin en tout cas du beau temps. Les températures maximales entre 14 et 18 degrés, c'est d'une grande douceur. 17 à Paris cet après-midi, 15 à Limoges et Lyon, 17 à Saumur, vraiment, c'est... là vous êtes en t-shirt presque, 14 à Nancy et 19 à Bayonne. Mais il va falloir quand même peaufiner les doudounes, les sortir, les raccommoder, les si elles sont un peu abîmées, parce que ça voilà 10 ans qu'elles n'ont pas servi. Et ce sera certainement le Noël le plus froid que nous ayons eu depuis 10 ans, c'est ce que nous avons
vu. Noël le plus froid depuis 10 ans.
Oui. Alors, bon. Ce sera un Noël normal, hein, au point de vue température. Mais on
c'est
avait
les
oublié
autres qui n'étaient pas normaux.
On avait oublié que ça existait, un Noël normal avec du froid, avec un peu de neige.
Et même de la neige.
Il y aura de la neige en pleine aussi. Hein.
Bon, il y aura de la neige à Noël. Voilà une information. Merci Laurent Cabrol. À tout à l'heure.
Europe Matin. Le 7-9, Sébastien Krebs.
Bienvenue sur Europe 1, tout de suite un nouveau journal. Bonjour Sophie Echen.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
7h30.
On est dans cette logique de l'animal marchandise, de l'animal objet. On n'achète pas un animal au petit parce qu'il a eu un bon bulletin du premier trimestre.
Le coup de gueule du président de la SPA ce matin sur Europe 1. Soyez sûr de vous quand vous achetez un animal et surtout, privilégiez les refuges. Trop de petites bêtes offertes à Noël finissent abandonnées quelques mois plus tard. Dans ce journal, la mise en garde d'Interpol qui redoute des attaques lors du transport du vaccin contre le coronavirus alors que les doses seront distribuées partout en Europe d'ici la fin de la semaine. Et nous irons aussi dans la petite
petite ville belge où le vaccin est fabriqué, ses habitants sont particulièrement fiers. Et puis les coquilles d'huîtres ont droit à une deuxième vie. En Gironde, elles permettent de renforcer les sols. Reportage à la fin de ce journal.
Après le journal, cette question. Serions-nous capables de bien réagir en cas de séisme, en cas de catastrophe naturelle? Comment mieux nous préparer? Préparer les Français. Le gouvernement a chargé l'ancien animateur de l'émission C'est pas sorcier, Frédéric Courant, de répondre à ces questions. Il vient nous dire ce matin comment il compte s'y prendre pour combler toutes nos lacunes. Il est l'invité du tête-à-tête Europe Matin avant l'édito politique de Nicolas Bétou. Bon réveil.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Abandonner votre animal de compagnie pourrait désormais vous coûter jusqu'à 3 ans de prison. Le ministre de l'Agriculture, Julien de Normandie, a dévoilé son plan de lutte contre ce phénomène grandissant. Plus de 100 000 chiens et chats abandonnés chaque année. Et 2020 ne devrait rien arranger. Avec les deux confinements, vous êtes nombreux à avoir craqué pour un compagnon à poil.
Et dans le viseur du ministre, il y a la vente d'animaux en ligne, sur Internet, sur le site Le Bon Coin en particulier, où les propriétaires se débarrassent, entre guillemets, des animaux devenus trop encombrants.
Julien de Normandie a donc annoncé la mise en place d'une charte avec la plateforme pour réguler les ventes. Et cela fait bondir le président de la SPA, Jean-Charles Fonbonne. Écoutez son coup de gueule ce matin sur Europe 1.
C'est une très mauvaise voie. Déjà, on n'arrive pas bien à comprendre comment un ministre de la République peut établir une charte avec un site qui est un site commerçant, qui est un site marchand. Quand on a dit commerçant et marchand, on comprend qu'on est à l'opposé d'une charte qui aurait pu être éthique et donc une charte de protection des animaux. Voilà, donc nous sommes tout à fait opposés à ces ventes. Si vous voulez un animal, prenez-le dans un refuge, chez nous ou dans une autre association. Achetez-le chez un bon éleveur si vous voulez un animal d'une race particulière. Et c'est quelqu'un qui, comme nous, ne vous donnera l'animal qu'à partir du moment où il aura la quasi-certitude que vous allez bien vous en occuper et que vous allez lui offrir des conditions de vie, des conditions d'hébergement qui vont être en rapport avec ses besoins physiologiques.
Jean-Charles Fonbonne, président de la SPA, invité de la matinale de Mathieu Charrier. Interview complète à retrouver sur Europe1.fr.
Et il y a une situation que les éleveurs connaissent bien, c'est celle de devoir récupérer des animaux après un achat compulsif. Écoutez, Marie, elle élève des bergers australiens et la demande a explosé pendant le confinement.
C'est de la folie. C'est des appels quotidiens, c'est une demande de chiots qui n'a jamais existé auparavant. Beaucoup d'exigences, des fois on me demande même de le livrer. C'est voilà, le confinement nous a permis de réfléchir. On va prendre un chien parce que maintenant on a une maison avec un jardin et on a du temps parce qu'on est en télétravail et le chien sera à côté de nous. Voilà, on veut un bébé clé en main qui réponde tout de suite au doigt et à l'œil, qui soit propre et puis qu'on puisse sortir partout. Mais c'est vraiment la tâche à cet endroit, la queue comme ça et les yeux clairs surtout. C'est joli le petit nounours à 2 mois, mais il devient grand quand même, il a des besoins ce chien. J'ai pas l'impression que les gens mesurent bien ce que ça représente. Moi, je suis très inquiète.
Des propos recueillis par Caroline Baudry pour Europe 1.
À la une, à nouveau ce matin, le coup d'envoi de la campagne de vaccination en France. Ce sera dès dimanche. L'Agence européenne des médicaments a donné son feu vert au vaccin Pfizer.
Un vaccin fabriqué en Belgique, à Puurs, dans la région flamande. Et on peut dire que cette petite ville de 25 000 habitants est plutôt fière de cette reconnaissance, comme l'a constaté sur place notre envoyé spécial Jean-Sébastien Soldaini.
À Puurs, plus personne ne râle contre les deux immenses éoliennes installées sur le site Pfizer, à l'entrée de ce village aux maisons cossues et où le bourgmestre Koen van den Heuvel se change en commercial.
Maintenant, l'espoir du monde est ici, est produit ici, pour pouvoir revenir à une période plus normale, qu'on peut se rencontrer sans restrictions, sans problèmes. Tout le monde est très très fier que c'est comme ça.
C'est comme ça, l'industrie pharmaceutique lui permet d'afficher un taux de chômage quasi nul. Mais ici, tout le monde connaît un employé de Pfizer, alors le chauvinisme ne se limite pas au bureau de l'hôtel de ville.
It will put us on the map.
Au moins, ça nous situe sur la carte du monde. It is also et puis, c'est bon pour la région. Ça va créer des emplois chez Pfizer. Et j'en suis fier.
I'm very proud.
Fier, oui, c'est une ville où on produit de la bière, des asperges et maintenant un vaccin.
Et cette marque de bière bien connue a déjà trouvé un slogan. Sa mousse est bonne pour la santé parce qu'elle vient des mêmes terres que le vaccin. Puurs, Jean-Sébastien Soldaini, Europe 1.
Ce vaccin, justement, il va être distribué dans plusieurs pays d'Europe dans les prochains jours. Un acheminement qui fait craindre à Interpol une forte hausse de la criminalité.
Des vols, des attaques de camions lors du transport des doses, des cambriolages d'entrepôts. En France, la police se veut plutôt rassurante. Gladys Laffitte.
C'est un appel à la vigilance lancé aux 194 pays membres d'Interpol et surtout à ceux qui n'auraient pas encore pris de mesures pour sécuriser l'acheminement du vaccin. Les pays aussi où le trafic sur le marché noir d'Internet pourrait être important. Un appel à relativiser donc ici en France où les réseaux d'approvisionnement sont fiables, sécurisés et où cette délinquance opportuniste est déjà anticipée, rappelle Michel Lavaux, porte-parole de la police nationale.
La délinquance cherchera à profiter de ces effets d'aubaine, mais encore une fois, la police s'adaptera et sera présente et répondra présente. On va étudier et analyser la vulnérabilité des sites qui seront concernés par les filières logistiques de cette campagne de vaccination. Pour le cas échéant, proposer des ajustements pour que ces sites soient mieux protégés.
Comme par exemple des escortes policières banalisées ou sérigraphiées pour les trois phases du transport, depuis la Belgique jusqu'à la centaine de lieux de stockage, puis jusqu'aux pharmacies et enfin jusqu'aux EHPAD. Des drones pourront aussi être mobilisés et il est demandé aux transporteurs de s'arrêter le moins possible, en tout cas pas dans des lieux fréquentés comme les aires d'autoroute pour prévenir toute attaque de convoi.
Gladys Laffitte du service police-justice d'Europe 1. Et pendant ce temps-là, les liaisons sont toujours suspendues avec le Royaume-Uni. La situation des Français bloqués sur l'île n'a pas avancé à 48 heures des fêtes. Emmanuel Macron réfléchit à un éventuel rapatriement.
Il est 7h37 sur Europe 1. Les fêtes, justement, elles approchent. Vous allez peut-être déguster des huîtres au réveillon. Mais ce que vous ne savez pas, c'est qu'elles peuvent être recyclées, en tout cas les coquilles.
Oui, en Gironde, plutôt que de faire venir des camions d'autres départements pour rapporter du sable, par exemple, la consigne est donnée par le département d'utiliser les ressources locales et donc de faire preuve d'imagination. D'où cette idée assez originale qui se concrétise. Recycler les coquilles d'huîtres que l'on intègre dans la composition du mortier. Ce mortier, il est indispensable pour remplir les nombreuses carrières. Et un premier chantier est mené pour valider cette nouvelle technique, Stéphane Place.
Oui, un trou, une carrière sous cette route départementale avec un risque d'affaissement de la chaussée. Alors c'est là qu'est menée cette première expérience pour boucher cette cavité de 65 mètres cubes. On a injecté un mélange, un mortier fabriqué avec des coquilles d'huîtres. Cyril Tomédis est le responsable des carrières de la Gironde. Il y en a 1400 dans le département.
Un laboratoire, Isiris, nous a concocté une formule. On est capable de remplacer 30% du sable utilisé dans le mortier avec des coquilles d'huîtres. Donc ce qui permet d'avoir exactement la dureté de la pierre existante dans les carrières. Donc on reconstitue le massif en injectant ce coulis.
Et ce n'est qu'un début, dit Frédéric Perrière, le directeur adjoint du département, rappelle que la ressource ne manque pas en Gironde. Rien que sur le bassin d'Arcachon, ce sont 10 000 tonnes de coquilles d'huîtres qui sont jetées chaque année.
L'idée générale, c'est vraiment de passer au volume, de structurer une vraie filière. C'est quand même plus intelligent d'éviter d'acheter du sable ailleurs. Là, en l'occurrence, on n'achètera pas les coquilles d'huîtres. On va passer de déchets qui coûtent à gérer puisqu'elles sont incinérées, traitées, à quelque chose qui va être réemployé à la place de quelque chose qu'on achetait. Donc on est vraiment dans une démarche gagnant-gagnant. Pour tout le monde.
Pour commencer, là, pendant les fêtes, des bennes sont mises à la disposition des particuliers dans les déchetteries du bassin d'Arcachon pour les encourager à rapporter leurs coquilles d'huîtres.
Et ben voilà, une idée originale. Stéphane Place, correspondant d'Europe 1 en Gironde. Alexei Navalny, principal opposant au Kremlin, assure avoir piégé un agent des services de sécurité russes pour lui faire admettre qu'il avait bien été empoisonné l'été dernier en Sibérie. Un acte que la Russie a toujours démenti.
Et puis je sais que vous êtes très nombreux à être extrêmement impatients. C'est l'un des films français parmi les plus attendus de 2021. Vous reconnaissez ce générique peut-être, c'est le nouvel opus d'OSS 117, Alerte Rouge en Afrique Noire. Alors la sortie est repoussée au mois d'avril et pour faire patienter les fans, le réalisateur Nicolas Bedos a dévoilé hier soir une toute nouvelle bande-annonce.
Je m'appelle Hubert Bonisseur de la Batte, je voulais vous souhaiter à tous une très belle et heureuse année 1981. Ah, vous étiez là ? Si vous aimez les animaux, les femmes frisées et les hélicoptères, retrouvez-nous le 2021.
À bientôt.
À tantôt. 14 avril. Ce fichu microbe nous a mis un de ces micmacs dans le calendrier, mon vieux.
Voilà, même OSS 117, ah bah voilà. On s'adapte à la situation. 14 avril.
Très bonne année 1981.
Si tout va bien.
Bon, on a vous bien noté. C'était le journal de Sophie Echen. Il est 8h20.
Europe Matin, le 7-9.
Il est 7h43. Et c'est un générique qui a bercé quelques générations d'enfants. Pendant plus de 20 ans, c'est pas sorcier. Fred et Jamy expliquaient la science aux plus jeunes. Eh bien, nous avons retrouvé ce matin l'un de ces deux animateurs, c'est Frédéric Courant. Et c'est les adultes aujourd'hui qu'il veut former, sensibiliser aux risques climatiques notamment. C'est même la mission que lui a confiée le gouvernement.
Le tête-à-tête. Sébastien Krebs.
Bonjour Frédéric Courant.
Bonjour Sébastien.
Merci d'être mon invité ce matin. Expliquez-nous en quoi va consister cette mission que vous a confiée, je le précise, la ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili.
Ah, c'est un grand projet, c'est d'essayer d'apporter un petit peu plus de culture du risque, c'est-à-dire de former un petit peu plus, former entre guillemets, informer un peu plus l'ensemble des citoyens sur tous les risques, qu'ils soient naturels ou technologiques, donc voilà. Et pas seulement les adultes d'ailleurs, les enfants aussi, c'est bien de commencer par les enfants des fois.
On n'a pas la conscience du risque en France ?
Ah, il semble qu'on ait un petit peu de mal à accepter qu'on habite à côté d'une zone inondable, à côté, pour ceux qui vivent en Outre-mer, d'un volcan, d'une zone sismique, etc. Donc, bah oui, c'est pas mal de savoir un petit peu ce qu'on a dans notre environnement pour mieux réagir en cas d'accident, quoi. Voilà, tout simplement.
Quel est le travail que vous allez rendre au gouvernement ?
Alors d'abord, c'est pas un travail que je vais faire tout seul, hein, parce que moi je suis journaliste, peut-être que... Bah, on m'a demandé de travailler là-dessus et ça m'intéresse beaucoup d'ailleurs pour l'aspect pédagogique. Voilà, mais il y a toute une équipe autour et des gens qui sont beaucoup plus experts que moi des risques naturels. Donc, on a 6 mois pour essayer de travailler, de se creuser la tête pour savoir comment faire en sorte que, bah, tout le monde s'intéresse un petit peu plus à ce qui se passe, aux risques, notamment, bah, tous ceux qu'on connaît, hein, qu'on a vus déjà au mois d'octobre dernier avec la tempête Alex, et de faire en sorte qu'il y ait des vies qui soient un petit peu plus souvent préservées.
Pourquoi ? Parce qu'on se fait surprendre. Vous parlez de la tempête Alex, il y a aussi eu l'incendie de Lubrizol. À chaque fois, on n'est pas préparé à de tels événements ?
Bah, je pense que les gens sont pas assez informés. Alors il y a des choses assez différentes. Quand vous parlez de Lubrizol, effectivement là il s'agit d'un accident technologique et on habite à côté d'une usine qui peut à un moment donné être en feu. Voilà, il y a un incendie et puis on savait pas qu'il pouvait y avoir des émanations. Il y a une sirène qui va d'un seul coup retentir dans la nuit. Mais qu'est-ce qu'on fait ? On sort, on rentre. On sait pas trop, quoi, en fait, ce qu'il faut faire. Donc non, je pense qu'il faut tout remettre à plat. Notre travail, d'abord, c'est de regarder ce qui se fait. Il se fait, en réalité, beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui existent dans le domaine de l'information, mais c'est un peu disparate. C'est pas facile toujours de trouver l'information, donc on va essayer de faire en sorte d'harmoniser un petit peu tout ça. Mais d'abord, c'est un bilan qu'on va faire, et puis après, on va faire des propositions.
Alors, il y a un exemple qui est intéressant, qui est un exemple que vous citez vous-même, c'est celui du Japon. On sait que les Japonais sont extrêmement préparés dès le plus jeune âge au risque sismique. C'est un modèle du genre ?
Pourquoi pas, ouais, non seulement au risque sismique, mais au tsunami aujourd'hui. Mais vous savez, c'est intéressant, moi j'étais il n'y a pas très longtemps aux Antilles, et depuis les séismes de 2004 aux Saintes, les enfants apprennent dans les écoles aux Antilles à se mettre sous une table, à sortir en urgence de la classe, simplement parce qu'ils sentent quelques vibrations au sol. Donc il suffit d'être formé, d'être préparé, et c'est pour ça que c'est important aussi de former les plus jeunes, d'avoir cette espèce de réflexe. Tout simplement, chez nous, en métropole, c'est pas le risque trop sismique ou volcanique, bien évidemment, qui existe. Mais quand vous avez une inondation, tout simplement, savoir que, il faut pas se lancer sur la route avec une voiture, parce que, avec votre voiture, il suffit d'avoir 30 cm d'eau pour que votre voiture soit emportée par les flots, tout simplement. Donc, des choses comme ça, des petits réflexes à avoir.
On constate, on le voit à chaque événement climatique, on a de mauvais réflexes en France.
A priori, ouais. A priori, on a de mauvais réflexes. Et voilà. Mais je pense que c'est quelque chose qui est... si on est mieux informé sur la façon dont se déroule un événement climatique, si on a accès à l'information quelque part à un endroit un petit peu plus centralisé, si on fait en sorte aussi que l'information soit un petit peu moins verticale, c'est-à-dire descendante, pour nous donner des ordres et faire en sorte que toute la population... soit plus intéressé de façon générale et plus impliqué dans ce qui est quoi finalement sa propre survie, à partir de là, on pourrait encore une fois sauver des vies. Et je pense que ça mérite quand même de travailler là-dessus.
Ça peut sauver des vies ? La bonne information, la bonne préparation ?
Inévitablement, bien sûr. Oui, bien sûr, on peut tous perdre notre vie tout simplement parce qu'on est mal informé à un moment donné, parce qu'on n'a pas le bon réflexe, parce qu'on ne sait pas ce qu'on peut faire face à une situation. Donc voilà. Et encore une fois, il ne s'agit pas de faire peur aux gens, il s'agit juste de les informer pour qu'ils soient mieux préparés le jour où il se passe un événement.
Comment on déploie toutes ces informations sur le terrain? Vous avez déjà une petite idée? Ce sont des formations à faire? C'est l'école? C'est au-delà?
Alors, il y a sans doute beaucoup de choses. Ça va être tout notre travail. Il y a effectivement, faut communiquer via les médias qu'on connaît, par un peu de pédagogie, via de la vidéo, via les réseaux sociaux, etc. Mais je pense aussi que ça passe beaucoup par le terrain. On a la chance d'avoir en France énormément de pompiers volontaires qui sont des gens, comme on le sait tous, qui sont très, très engagés dans la protection des vies. Je pense qu'ils sont disposés aussi à organiser, pourquoi pas, une journée du risque, des... plus de rencontres avec les gens, avec les citoyens, pour pouvoir être confrontés, nous, à un moment donné, à ce qui s'appelle le risque. Vous savez, moi, j'ai vécu avec C'est pas sorcier, il y a quelques années, une expérience sur les séismes aux Antilles. Oui. Ils avaient un dispositif qui était très intéressant. Il y avait une sorte de plaques qui simulaient un tremblement de terre. Et chaque enfant pouvait monter sur cette plaque pour se dire à un moment donné, maintenant, tu vas être debout sur une plaque avec un séisme de magnitude 6, et puis maintenant 7, et puis maintenant 8. Et quand vous montez sur une plaque comme ça, vous vous rendez un petit peu plus compte de ce qu'est un tremblement de terre.
Et de ce
ça vous fait tout simplement prendre conscience de ça. Donc il y a probablement plein de dispositifs comme ça à mettre en place.
Que vous ont appris ces 20 et quelques années passées dans C'est pas sorcier aux côtés de Jamie à vulgariser la science, à l'expliquer aux plus jeunes et d'ailleurs aux moins jeunes, parce que tout le monde pouvait regarder cette émission. Il y a quelque chose à en tirer dans la façon dont vous allez envisager les choses sur ce sujet précisément aujourd'hui?
Déjà d'écouter les gens, d'écouter les professionnels, de recueillir leur expérience, d'essayer d'en faire une synthèse et de la traduire pour la transmettre à tout le monde, au grand public. Vous savez, avec Jamie, nous, on a été toujours les premiers curieux et les premiers spectateurs de nos propres émissions. C'est-à-dire qu'on a appris beaucoup de choses et on a essayé de les transmettre après. On va essayer, et là, je vais essayer de travailler avec toute l'équipe encore, parce que je suis pas tout seul. On va essayer de travailler dans le même sens, d'écouter, de regarder ce qui va, ce qui va pas, et de faire avancer les choses.
Vous devrez rendre vos travaux dans combien de temps?
À peu près 6 mois.
6 mois. Voilà, Fred de C'est pas sorcier, Frédéric Courant, en mission pour le compte du ministère de la Transition écologique pour 6 mois, pour mieux former, mieux préparer les Français aux risques climatiques et environnementaux. Merci beaucoup d'avoir été ce matin sur Europe 1, Frédéric Courant.
Merci, avec plaisir.
Il est 7h52 sur Europe 1.
Europe Matin, le 7-9, Sébastien Krebs.
Il est 8h05 sur Europe 1. L'édito politique à présent avec vous, Nicolas Bétou. Bonjour.
Bonjour Sébastien.
C'est fait, le Conseil des ministres a décidé de repousser les élections régionales et départementales au mois de juin. L'objectif, Nicolas, c'est d'éviter de répéter le cafouillage qu'on a connu sur les dernières municipales.
Avec, on s'en souvient tous, un deuxième tour décalé de 3 mois, ce qui avait brisé la dynamique électorale et abouti au plus fort taux d'abstention jamais atteint pour ce type de scrutin. Pas brillant, donc. Alors cette fois, le gouvernement prend ses précautions et anticipe qu'en juin, la lutte contre le Covid aura certainement suffisamment progressé pour rendre le vote possible sans trop de risques sanitaires. Sauf que, pas de chance, cette annonce du Conseil des ministres est tombée le jour même où une mutation inopinée du virus obligeait à se couper de la Grande-Bretagne.
Qu'est-ce que vous voulez dire que juin n'est pas vraiment plus sûr que mars?
Personne ne peut le dire avec une absolue certitude, mais surtout ce qui est frappant, c'est qu'en reportant le vote, le gouvernement agit comme s'il était allé au bout de ce qui était faisable.
Il fallait repousser encore plus loin ces élections?
Ça, c'était le rêve d'Emmanuel Macron, tout reporter de plus d'un an et balancer tout après l'échéance de la présidentielle de 2022, avec un double objectif inavoué, empêcher la déroute de son parti, La République En Marche, qui n'aura probablement aucune présidence de région, et puis parallèlement, interdire que Xavier Bertrand, Valérie Pécresse, Bruno Retailleau, ses potentiels adversaires de droite dans la course de l'Élysée, ne prennent appui sur un succès électoral pour créer un rapport de force en leur faveur. Mais bon, cette idée un peu baroque a été exclue. Non, ce que je veux dire, c'est que, en dehors de cette question de calendrier, le gouvernement semble s'être interdit toute réflexion approfondie sur ce que pourrait être une vraie modernisation de ce geste simple, aller voter, mettre un bout de papier dans une enveloppe, puis dans une urne. À part le fait que certaines mairies ont installé une machine électronique qui permet plutôt d'appuyer sur un bouton, cette liturgie est immuable depuis des décennies. Et je suis prêt à parier que tous ceux qui ont accompagné leurs parents dans l'isoloir ont un petit flash nostalgique lorsqu'ils votent à leur tour aujourd'hui. Parce que quoi ? Rien n'a changé.
Alors justement, qu'est-ce qui pourrait changer ?
Ben, les États-Unis viennent de démontrer que le vote par correspondance provoquait un record de participation. Mais la France n'en veut pas, en prétextant des risques de fraude et de pression dans les familles ou dans les communautés. Autre piste, le vote par Internet, mais il est soupçonné d'être un objet idéal de piratage. C'est bizarre, vous et moi, on peut déclarer et payer nos impôts sur Internet. Est-ce que ce serait moins sûr de voter ? Pas certain. Et puis, dernière piste, pourquoi ne pas étaler les files d'attente en permettant le vote sur plusieurs jours, ce qui est possible avec des urnes électroniques. Voilà. Depuis des années, tout dans notre vie quotidienne a changé, mais pas notre façon de voter. La France se prend toujours pour un phare de la démocratie, mais elle est sacrément bloquée sur les façons de transmettre la lumière.
Voilà de quoi réfléchir. Merci Nicolas Bétou, directeur du journal L'Opinion, votre édito politique tous les matins avant 8h. Et tiens, restez dans le coin, je ne sais pas si vous êtes client. Vous reconnaissez l'intro ? Les Beatles ?
Oui, les Beatles.
Les Beatles. Et c'est un grand nom du cinéma qui est en train de faire un film sur eux.
Hi everybody, this is Peter Jackson.
Peter Jackson, le réalisateur de la trilogie du Seigneur des Anneaux, annonce dans cette petite vidéo, depuis sa salle de montage, la sortie d'un documentaire sur les Beatles. Son titre ?
Get The Beatles, Back. Get Back.
Get Back, ce documentaire doit sortir en salle aux États-Unis au mois d'août 2021 avec des images de l'époque, certaines exclusives. Le réalisateur, donc Peter Jackson, a travaillé sur 55 heures d'archives. Voilà, on découvrira en France, j'espère. 7h59, on va retrouver Laurent Cabral pour la météo. Laurent, c'est à vous.
Alors, pour aujourd'hui, trois types de temps. D'abord, ceux qui vont avoir de la pluie, la Manche, les frontières du Nord et du Nord-Est, les Pays de la Loire, l'Orléanais, la région parisienne, la Bourgogne. Deuxième catégorie de personnes, tous ceux d'entre vous qui habitent le Poitou-Charentes, l'Allier, le Nivernais ou la Franche-Comté, là c'est un système d'amélioration assez progressif. Et puis enfin, ceux d'entre vous qui habitent le Sud-Ouest, le Massif Central, enfin le Sud du Massif Central et le bassin méditerranéen, là vous aurez un soleil voilé. Les températures aujourd'hui entre 14 et 18 degrés, c'est la grande douceur. Mais ne nous laissons pas griser. Attention, mes amis, le froid arrive. Tout va se passer la nuit de Noël, le 24 décembre. Nous allons voir et assister à une dégringolade du thermomètre. Nous allons perdre dans la nuit de Noël quelque chose comme 6 à 7 degrés. Vous voyez, ah oui, il va faire vraiment très froid. Et au petit matin, il y aura même de la neige au sol sur les plaines du Massif Central, de Franche-Comté, de la région Rhône-Alpes. Donc ça sentira vraiment l'hiver. C'est la raison pour laquelle je vous annonce d'une manière assez solennelle que c'est un hiver, un Noël plein de tisons qui s'annonce. Noël au tison, bon, après on verra pour le reste. Hein,
on verra pour Pâques, on n'est pas encore.
Mais Noël au tison, c'est une nouveauté, puisque depuis 10 ans, on n'avait pas eu un Noël aussi froid, même si c'est un Noël tout à fait normal, il ne faut pas se leurrer. Ce n'est pas son froid des températures dantesques. Mais on n'a pas l'habitude de ce type de temps, c'est la raison pour laquelle il va vraiment falloir ça y est, j'ai fini. Va falloir faire attention.
Le Noël le plus froid depuis 10 ans, voilà cette information donnée ce matin par Laurent Cabrol sur Europe 1. Merci Laurent.
Europe Matin. Le 7-9, Sébastien Krebs.
Tout de suite, le journal. Bonjour Rémi Botsaron.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
Écoutez le monde changé. Il est 8h.
La situation n'est pas hors de contrôle. Le virus se transmet peut-être plus facilement aujourd'hui. Ça peut avoir une incidence sur les chiffres avec plus de malades. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut plus le maîtriser.
Quand l'Organisation mondiale de la santé contredit les autorités britanniques, elle disait la variante du Covid-19 hors de contrôle, l'OMS n'est pas d'accord. Alors à quoi joue Boris Johnson, dont le pays est désormais coupé de l'Europe continentale ? En France, au sommet de l'État, on se demande si tout cela n'est pas un jeu politique. La France qui s'apprête à fêter Noël, alors que tous ses voisins se reconfinent, les réunions seront possibles en petit comité, certes, mais cela inquiète certains scientifiques qui voient réunis tous les éléments nécessaires à l'apparition d'une troisième vague épidémique. Et puis c'est un questionnement classique, fin décembre, parmi les romans couronnés par des prix à l'automne, lesquels faut-il choisir pour les déposer sous le sapin ? Les meilleures idées de cadeaux sont celles de Nicolas Caro.
Un déferlement antisémite visant une candidate au concours de Miss France. Les réseaux sociaux, une nouvelle fois, en accusation pour ne pas avoir réagi assez vite. La ministre chargée de l'égalité femmes-hommes est sur Europe 1 ce matin. Elisabeth Moreno est mon invitée politique dans un quart d'heure. Bon début de journée à tous.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
On se souvient de ces mots du ministre de la Santé britannique qui avait suscité comme un vent de panique à travers l'Europe. Il disait dimanche que la nouvelle variante du Covid était hors de contrôle.
Et dans la foulée, de nombreux pays, dont la France, vous le savez, avaient suspendu leur liaison avec le Royaume-Uni. Mais aujourd'hui, ces propos alarmistes des autorités britanniques suscitent un certain scepticisme, notamment de la part de l'OMS, mais aussi de la part des autorités françaises. Bonjour Louis de Raguenel.
Bonjour.
Alors vous pouvez nous dire ce matin qu'en coulisses, au sommet de l'État, on accueille avec une grande prudence ces inquiétantes paroles britanniques.
Oui, parce que d'après les virologues français qui ont épluché les rapports scientifiques en provenance de Grande-Bretagne, rien ne démontre que le virus serait plus virulent après cette mutation. Aucun élément tangible ne permet non plus de penser qu'il serait devenu hors de contrôle. Même conclusion de l'Organisation mondiale de la santé qui laisse entendre qu'il faut prendre le diagnostic des autorités sanitaires britanniques avec beaucoup de circonspection. Cela pourrait être un coup de bluff de Boris Johnson, estime un proche de l'exécutif, qui explique qu'il n'est pas impossible que le Premier ministre britannique ait aggravé l'importance de cette mutation du virus pour éviter d'assumer qu'il a fermé les pubs seulement la semaine dernière. Autrement dit, Bojo noircirait la situation sanitaire de son pays pour maquiller ses erreurs politiques à la fois sur sa gestion de l'épidémie et sur les conséquences du Brexit.
Alors Loïc, il faudrait avoir une double lecture, peut-être cette exagération sur la mutation du virus, il faudrait la mettre en lien en fait avec les difficiles négociations commerciales sur le Brexit.
Écoutez, c'est ce que pensent plusieurs conseillers ministériels français qui m'ont clairement dit que Boris Johnson cherchait par tous les moyens à prouver que le monde se fermait à la Grande-Bretagne, alors que c'est le contraire, c'est Londres qui a choisi de se couper du monde. Du coup, au sommet de l'État français, on se demande si dans la dernière partie des négociations avec les Européens, Boris Johnson ne serait pas en train de tenter un nouveau coup de poker à l'anglaise.
Merci pour ces informations, Louis de Raguenel, du service politique d'Europe 1.
Alors, il y a d'un côté peut-être cette stratégie politique du coup de poker à l'anglaise, mais de l'autre, il y a les conséquences très concrètes sur le terrain aujourd'hui.
Et puisque la France a coupé ses liaisons hier pour 48 heures avec le Royaume-Uni, ça a notamment laissé de nombreux camionneurs bloqués outre-Manche à la frontière, comme ceux du transporteur rencontré à Boulogne-sur-Mer par Lionel Gougelot.
Depuis dimanche soir, Bruno Ringot prend régulièrement des nouvelles de son chauffeur bloqué à l'entrée du port de Douvres.
Donc tu as des files de camions qui sont parqués sur la M20, tu me disais ?
Ouais, c'est ça, ils ont bloqué tout le monde sur l'autoroute. On ne peut pas du tout accéder au bateau, il y a des plots directement à l'entrée, donc ils nous refoulent direct à l'entrée.
Alors comme des milliers d'autres routiers, Florent doit prendre son mal en patience.
T'es livré à toi-même, quoi.
Bah oui, il n'y a pas d'infos, mis à part ce que j'arrive à dénicher sur Internet, quoi.
Mmh. Avec la hantise de se retrouver piégé de l'autre côté de la Manche jusqu'à Noël.
Ils ont annoncé le départ 48 heures, mais sans certitude, quoi. Donc, pour le moment, ouais, pas plus d'infos que ça, on attend.
Des chauffeurs qui pourraient être autorisés à franchir le Channel après un test de dépistage, irréaliste selon le patron routier.
Il y a 10 000 camions en Angleterre sur Douvres, sur 20-30 km de bouchons. Qu'on m'explique qu'on va faire des tests. Je vois pas, ils vont faire une infirmière camion par camion. Ça va prendre une semaine, cette histoire-là. Et c'est inadmissible ce qu'on fait subir aux salariés du transport routier.
Alors Bruno restera en contact permanent avec son chauffeur.
Bon courage et le moindre problème, tu nous appelles, nous on essaie de faire le maximum. D'accord ?
D'accord, c'est gentil, merci.
Allez, à bientôt.
Avec l'espoir qu'à Douvres, les routiers soient libérés le plus rapidement possible. À Boulogne-sur-Mer, Lionel Gougelot, Europe 1.
Et la France n'est pas la seule à avoir suspendu ses liaisons avec le Royaume-Uni.
Et d'ailleurs, l'Union européenne doit tenter aujourd'hui d'harmoniser les mesures prises par différents États membres et les autorités européennes qui se veulent par ailleurs rassurantes. Le vaccin Pfizer-BioNTech autorisé hier soir devrait être efficace, y compris face à la nouvelle variante de Covid-19 selon l'Agence européenne des médicaments. Les campagnes de vaccination doivent débuter dimanche.
8h05 sur Europe 1, en 16 heures potentiellement décisives sur le front de l'épidémie. Emmanuel Macron reprend la parole ce matin chez nos confrères de l'Express.
Et c'est un entretien sur la longueur publié en ligne et que vous avez déjà lu, Jean-Rémy Baudot. Ce qui apparaît clairement, c'est qu'en cette fin d'année, le président de la République souhaite revenir sur les incompréhensions provoquées selon lui par certaines de ses décisions.
Oui, incompris, mal compris. Dans cette longue interview, Emmanuel Macron plaide une forme de malentendu avec les Français. Quand j'ai dit que nous étions un peuple de Gaulois réfractaires, je m'incluais dans les Gaulois réfractaires, dit-il à nos confrères de l'Express. Il revient aussi sur certains épisodes de 2017. Déjà à l'époque, il se dit, je cite, mal compris, caricaturé. On a dit que j'étais un multiculturaliste, que ce que je n'ai jamais été. Ma matrice intellectuelle et mon parcours doivent beaucoup à Jean-Pierre Chevènement et à une pensée républicaine. Soulignant que la France est, je cite, une société de l'émotion permanente, un peuple de paradoxes. Mais pour lui, être français, c'est habiter une langue et une histoire. Il promet par exemple de renforcer les cours de français et d'histoire pour accéder à la nationalité. Enfin, cette longue interview a été réalisée en isolement et justement, c'est l'occasion pour le président de justifier sa politique, de justifier d'ailleurs ce deuxième confinement. Un exemple d'efficacité, dit-il. Nous avons pris la décision au bon moment comme une réponse à ceux qui doutent de sa politique. Finalement, les Français n'ont pas été aussi réfractaires que ça puisqu'il dit qu'ils se sont très bien tenus dans cette deuxième confinement.
Jean-Rémy Baudot du service politique d'Europe 1, merci.
Emmanuel Macron qui a choisi de laisser les Français fêter Noël sans confinement, ce qui semble aller à contre-courant de ce que font nos voisins européens.
Ouais, ces voisins, ce sont les Allemands, les Autrichiens, les Italiens par exemple, qui se retrouvent tous confinés ou reconfinés, alors que les Français pourront, dans une certaine mesure, sortir et se réunir pendant les fêtes. Et cette spécificité française inquiète certains scientifiques. Bonjour Anne Le Gall.
Bonjour.
Spécialiste santé d'Europe 1, ces scientifiques dont je parlais, ce qui les inquiète, c'est le risque de provoquer ainsi un rebond de l'épidémie en France.
Voilà, parce qu'avec les regroupements familiaux, le froid, l'humidité, nous sommes entrés dans une zone à risque et les courbes de suivi d'épidémie le montrent. Les hospitalisations restent stables, mais à un niveau élevé, autour de 1200 par jour. L'incidence repart à la hausse et des projections de la Fédération hospitalière de France font craindre une troisième vague en réanimation dès le 7 janvier. Alors certains médecins estiment qu'il faudrait renforcer les contraintes juste après Noël pour protéger les hôpitaux. Pour le professeur Philippe Amouyel, médecin de santé publique à Lille, cela se justifierait notamment autour du 31 décembre, car le couvre-feu n'empêchera pas les rassemblements.
Jusqu'à 20h, on reste ensemble, et puis à 20h, plus personne ne sort, tout le monde reste groupé, et les personnes ne ressortent qu'après 6h du matin. Donc, des conditions qui vont favoriser massivement la circulation du virus. Donc, idéalement, pour essayer de limiter ces conditions-là, ce serait de mettre quelques mesures restrictives un petit peu en plus, juste avant.
Alors quand on parle de nouvelles mesures restrictives, Anne Le Gall, on parle de quoi exactement ?
Alors un élargissement du couvre-feu ou un reconfinement de quelques jours, cela suffirait sans doute, estime ce médecin. Mais pas sûr qu'une telle mesure soit comprise par les Français. Le gouvernement avait fixé un nouveau point de situation début janvier et à ce stade, il s'y tient. On peut attendre encore, confirment certains experts, attendre en comptant sur le civisme des Français et en comptant aussi sur les vacances scolaires qui, en réduisant le brassage chez les jeunes, contribueront peut-être à contenir l'épidémie.
Merci Anne Le Gall, spécialiste santé d'Europe 1.
Sur le front économique, à présent, il y a un phénomène que les autorités continuent de surveiller, la fraude au chômage partiel.
Une fraude qu'on peut qualifier de massive. Elle dépassait les 200 millions d'euros selon les derniers chiffres communiqués fin octobre par le parquet de Paris qui mène les enquêtes. Les mesures mises en place par le gouvernement au mois de mars pour soutenir les entreprises attisent donc les convoitises. Et Justin Morin, on ne parle pas là forcément de patrons peu scrupuleux. Il y a surtout des escrocs spécialisés en la matière.
Oui, il y a bien des petits patrons qui bénéficient de la mesure tout en continuant de faire travailler leurs salariés, mais ils sont facilement repérables. Les contrôles se sont aussi renforcés depuis le premier confinement avec des délais d'études de dossiers rallongés de 48 heures au printemps à 15 jours aujourd'hui. Mais ce qui occupe surtout les enquêteurs, ce sont les escrocs professionnels, souvent basés à l'étranger. Là, on retrouve les techniques classiques, les numéros Siret des entreprises en libre accès sur Internet sont usurpés. Plus de 7000 boîtes françaises ont ainsi été piégées. Ces braqueurs du chômage partiel y associent leur RIB pour ensuite transférer l'argent débloqué vers des comptes à l'étranger. Un vrai réseau, décrit par Anne-Sophie Coulbois, c'est la patronne de l'Office central pour la répression de la grande délinquance financière.
Ces groupes utilisent effectivement des méthodes très sophistiquées avec une spécialisation des tâches entre eux, ceux qui vont fournir des listes potentielles de victimes et ensuite il y a ceux qui fournissent l'aspect blanchiment, c'est-à-dire l'aspect circulation des fonds de compte en compte dans le monde entier. Et donc c'est là qu'on aboutit à des phénomènes d'envergure.
Ces équipes travaillent sur une trentaine de dossiers de ce type, des tracks dont la potentielle réussite doit beaucoup à la coopération internationale.
Merci pour ces explications, Justin Morin du service police-justice d'Europe.
C'est une question que on se pose tous beaucoup à l'approche de Noël. On a vu tous ces prix littéraires. Mais lequel choisir ? Quel livre choisir pour l'offrir à ses proches ?
Ouais, difficile parfois de se retrouver parmi tous ces bandeaux rouges qui s'affichent fièrement sur les rayons des libraires. Alors faisons appel ce matin aux précieuses lumières de Nicolas Caro. Bonjour Nicolas.
Bonjour.
Alors Nicolas, ma question est simple et directe. Vers quel roman primé faut-il se tourner cette année selon vous ?
Eh bien alors commençons par le roi des prix, le Goncourt. C'est Hervé Le Tellier qui l'a emporté cette année avec L'Anomalie chez Gallimard. Vous vous souvenez, énorme succès de vente. Ensuite, c'est un peu un roman de science-fiction, mais c'est aussi un roman qui joue avec les codes littéraires. Chaque personnage correspond à un genre, polar, roman sentimental, psychologique, etc. C'est cet équilibre qui a convaincu le Goncourt, un roman à la fois populaire et pointu. Hervé Le Tellier.
Je suis très heureux qu'on dise ça de ce livre parce que j'ai toujours aimé des livres qui avaient ces deux aspects. Il n'y a pas de contradiction pour moi entre le fait de faire de la littérature et d'accéder à une littérature populaire. C'est possible de faire les deux.
Voilà, le Goncourt, ça c'est facile, c'est assez classique. Nicolas, un roman qui peut convenir à beaucoup, on le comprend. D'autres suggestions peut-être ?
Alors, soit le prix Renaudot, Marie-Hélène Lafont, pour Histoire du fils, chez Buchet-Chastel, une saga familiale au XXe siècle. C'est une auteure, Marie-Hélène Lafont, qui a ses lecteurs, qui la suivent depuis 20 ans, Valeurs sûres, ou Irène Frein, idem, avec peut-être son meilleur livre, prix interallié, Un crime sans importance, au seuil. L'écrivaine enquête sur l'assassinat de sa propre sœur, c'est addictif et bouleversant. Pour le neveu ou la nièce en terminale portée sur les lettres, le Goncourt des lycéens, Djaïli Amadou Amal, Les Impatientes, chez Emmanuel Collat. Il a beaucoup plu aux élèves malgré la dureté de l'histoire. Djaïli Amadou Amal, camerounaise, raconte le destin de trois femmes au Sahel avec au cœur du livre la question des violences faites aux femmes. Pour son frère ou son oncle, La Grâce de Thibaut de Montaigu, prix de Flore, un cadran est touché par la grâce dans une abbaye et sa vision du monde en est chamboulée. Alors évidemment, ensuite, on se les passe, hein. Les romans sont pour tous les publics.
Voilà, merci, il y en a vraiment pour toute la famille. Merci,
voilà,
Nicolas.
Il y en a pour tout le monde, il y a plein d'idées, petites idées de dernière minute, puisque là ça approche quand même. Rémi Botsaron pour le journal, il est 8h12.
Europe Matin, le 7-9. Sébastien Krebs.
Il est 8h15 sur Europe 1. L'invité politique ce matin est la ministre déléguée en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes. Bonjour Elisabeth Moreno.
Bonjour Sébastien Krebs, bonjour à tous et à toutes.
Merci d'être mon invité ce matin. Le parquet de Paris a ouvert une enquête hier suite à un déferlement de haine antisémite qui a visé l'une des candidates au concours de Miss France samedi soir. Miss Provence, visée uniquement parce qu'elle l'a précisé à l'antenne que son père est israélien. Tiens, écoutez là, on ne l'avait pas encore entendu depuis.
C'est la première fois que je dois faire face à ce genre de propos. J'ai décidé de porter plainte. Il faut pas que ça s'arrête là et il faut que on puisse sensibiliser encore les gens à ce genre de choses.
Il ne faut pas que ça s'arrête là, dit April Benayoun, c'était sur BFM. Mais on a l'impression que c'est toujours la même histoire, Elisabeth Moreno.
Écoutez, c'est un moment de fête suivi par des millions de Français qui auraient dû n'apporter que de la joie et qui en fait a été gâché par ces relents d'antisémitisme qui n'ont pas leur place dans notre pays. La vague de propos antisémites dont April, notre magnifique Miss Provence, première dauphine d'Amandine Petit, est totalement abjecte et inacceptable. Et de manière générale, l'antisémitisme reste un fléau, vous avez raison, qui doit nous concerner tous parce qu'il touche simplement à la dignité humaine et nous devons absolument le combattre et rester vigilants en permanence. Il ne faut pas que ça s'arrête là. Moi, je me réjouis que la justice ait ouvert une enquête pour retrouver et punir les auteurs de ces propos haineux.
Nouvel exemple de propos antisémites, nouvel exemple aussi de lynchage sur les réseaux sociaux où les messages restent encore en ligne pendant plusieurs heures, voire plusieurs jours. Pourquoi on n'y arrive pas ? Pourquoi on n'arrive pas à forcer ces réseaux à agir plus vite ?
Eh bien, je pense, vous avez raison de le mentionner, parce que finalement, les réseaux sociaux, d'abord, je voudrais dire que les réseaux sociaux ne sont que le reflet de ce qui se passe dans notre société. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il est extrêmement important, après, il le disait tout à l'heure, il faut sensibiliser, il faut former, il faut informer, et il faut que les réseaux sociaux se sentent responsables de ce qui se passe sur leur plateforme. Moi, je suis complètement atterrée de voir combien... c'est lent aujourd'hui, malgré les alertes qui peuvent leur être données. On l'a observé avec la vague de racisme anti-asiatique il y a quelques mois, mais également avec la mannequin Christelle Yambaïssa qui a été victime, elle aussi, de discours haineux sur les réseaux sociaux parce qu'elle est noire, suite à cette campagne de publicité qu'elle a faite pour Monoprix. Et ces discours de haine virtuelle engendrent fatalement des blessures réelles, parce que les réseaux sociaux ne sont pas un monde à part. Vous imaginez si vous étiez menacé de mort dans la rue en permanence, et si vous receviez un tombereau de haine de personnes qui ne vous connaissent pas, que vous ne connaissez pas, et qui déversent sur vous leur colère, leur peur, leurs ignorances ou encore leur frustration.
Il y a encore
et
des moyens d'agir. On a vu la loi Avia a été censurée par le Conseil constitutionnel. Elle tentait d'imposer aux plateformes de retirer les commentaires haineux en 24 heures. Ce n'est pas passé. Il y a encore des moyens d'agir ?
Alors, bien sûr qu'il y a des moyens d'agir. Et le combat du gouvernement, mon combat pour lutter contre la haine en ligne, il repose en fait sur trois axes. D'abord, en soutenant et en enrichissant le projet de loi confortant le respect des principes de la République. Dans son article 20, ce projet de loi propose au juge une meilleure poursuite des auteurs en lui permettant de faire usage de la procédure de comparution immédiate qui est prévue dans le code de procédure pénale. Je sais que c'est un cheval de bataille du garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, et je le soutiendrai ardemment sur ce sujet. Ensuite, en soutenant la proposition de directive européenne dite Digital Service Act portée par Thierry Breton, elle conforte là aussi la position française en permettant de lutter contre la prolifération des contenus illégaux en ligne. C'est un sujet que notre pays soutient au plus haut niveau, puisque le Premier ministre et le Président de la République se sont exprimés là-dessus. Mais dans l'attente de l'adoption de cette directive européenne, nous pouvons en France, comme vous l'avez dit, adopter des dispositions au niveau national pour lutter contre la haine en ligne. Et pour cela, nous pouvons reprendre certaines des dispositions de la proposition de loi de Laetitia Avia sur le retrait des contenus illicites. Et puis enfin, il y a un observatoire, qui est géré par le CSA, qui est chargé de l'observation des contenus haineux sur Internet. Il réunit la DILCRA et plusieurs associations. Et c'est au travers de toutes ces actions nous comptons lutter contre cette haine en ligne. Et moi, je veux dire, je veux accuser les plateformes qui refusent de prendre leur responsabilité sur ce sujet lorsque ces choses-là arrivent. Je les accuse de se cacher derrière leurs petits doigts et d'être volontairement passifs face à la haine. Et je les accuse aussi de ne pas se saisir de ces sujets, parce que la vraie question qu'il faut se poser, c'est dans quelle société est-ce que nous voulons vivre, dans quelle société est-ce que nous voulons élever nos enfants. Et lorsqu'on est chef d'entreprise, moi j'ai été dirigeante d'entreprise, et je sais que lorsqu'on se saisit véritablement de ce sujet, on peut l'éradiquer.
Elisabeth
et j'ai rencontré plusieurs chefs d'entreprise qui se sont saisis de la lutte contre les discriminations. Donc ces chefs d'entreprise prouvent que c'est possible, et j'attends de ces plateformes qu'elles prennent également leurs responsabilités.
On entend votre appel, Elisabeth Moreno. Je reviens d'un mot au concours de Miss France, puisqu'on en parlait. Que pense la ministre en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes de ce concours où des jeunes filles défilent en maillot de bain soumises au vote des téléspectateurs? Est-ce que cela a encore sa place en 2020 à la télévision française?
Écoutez, c'est une institution française. Je pense que vous avez vu combien de Français ont suivi ce programme cette année encore.
Ah, mais la question n'est pas là.
Moi, je pense que la question n'est pas là.
La question n'est pas là. Dans le monde de 2020, est-ce que la ministre de l'égalité entre les femmes et les hommes considère que ce concours a encore sa place à la télévision ?
Moi, je ne suis pas contre ce programme à partir du moment où il fait partie de notre culture et c'est quelque chose à quoi nous tenons. Les jeunes filles qui s'y présentent, vous savez, il y a des jeunes filles qui rêvent un jour de pouvoir se présenter à ce concours de Miss France. À partir du moment où elles le font sur la base de leur choix, de leur volonté, et que ce moment est un moment de fête et qu'il ne dégrade pas les jeunes femmes qui contribuent, je ne vois pas pourquoi je m'élèverais contre cela. Absolument.
Elisabeth Moreno, vous êtes aussi en charge au gouvernement de la diversité et de l'égalité des chances, et vous dites vouloir porter une jambe sociale, la jambe gauche, en gros, au sein du projet de loi séparatisme. Y a de la place encore pour cela dans ce contexte très sécuritaire qu'on connaît ?
Mais bien sûr qu'il y a de la place. Vous savez, il y a beaucoup d'actions dites de gauche qui ont été prises par ce gouvernement tout au long de ces années. Il se trouve que la triple crise sanitaire, économique et sociale que nous subissons aujourd'hui a tendance à les faire oublier. Il ne faut pas non plus négliger ces questions de sécurité, parce qu'il est extrêmement important de protéger les valeurs de notre République. Moi, j'ai envie de porter ces actions de gauche parce que le cœur de mon ministère aujourd'hui tient justement à la dignité humaine, il tient à la lutte contre les discriminations, il tient au fait que nous soyons capables de tendre la main à toutes les personnes qui peuvent parfois être stigmatisées, qui peuvent être oubliées,
laissées de côté. Est-ce que c'est le sujet? On parle de lutter contre l'idéologie islamiste.
Mais Sébastien Krebs, est-ce que parce qu'il y a des idéologies islamistes qui menacent notre pays, nous devons laisser de côté les personnes qui sont vulnérables, les personnes qui souffrent et les personnes qui sont en difficulté? Est-ce que nous ne sommes pas capables de faire les deux en même temps? Est-ce que nous ne sommes pas capables à la fois de protéger nos valeurs fondamentales et en même temps de nous occuper des personnes qui ont besoin de nous? Je ne vois pas en quoi ce serait incompatible.
Alors, quelles mesures sociales resteront dans cette loi?
Eh bien, je pense, déjà, je tiens à préciser que les mesures sociales n'ont pas fondamentalement besoin d'être dans cette loi. Je soutiendrai évidemment, je sais qu'il y a plusieurs députés de La République En Marche aujourd'hui qui réfléchissent à introduire dans cette loi des mesures sociales. Mais il y a aussi d'autres manières de répondre à ces problématiques. Et vous l'avez vu, le président de la République en a parlé dans sa dernière interview de Brut. Moi, celle qui m'intéresse le plus, parce que ça fait plusieurs mois qu'au sein de notre ministère, nous travaillons sur des propositions justement pour donner un aspect social à ce sujet. Et il y a trois choses sur lesquelles nous allons travailler. La première, c'est la plateforme qui va accueillir la parole des personnes qui sont discriminées. Il y a aujourd'hui 25 causes de discrimination dans notre pays, mais il y a aucun guichet unique qui puisse recueillir la parole de toutes les personnes qui sont discriminées. Donc ça, c'est la première chose que nous allons faire.
C'est une plateforme qui va s'installer sur Internet. Ce sera un numéro de téléphone.
Alors, ce sera une plateforme qui sera accessible par téléphone, qui sera accessible via les chats, qui sera accessible sur Internet pour permettre à toutes les personnes. C'est un peu sur le modèle de arrêtonslesviolences.gouv.fr qui permet aujourd'hui aux femmes qui sont victimes de violences conjugales de pouvoir parler aux forces de l'ordre. Là, en l'occurrence, nous allons surtout travailler avec le défenseur des droits et nous allons travailler avec les associations. Les personnes qui appelleront cette plateforme ou qui enverront un email auront un accès aux personnes qui sont formées par les défenseurs des droits et qui pourront traiter ces requêtes, qui pourront faire de la médiation lorsque c'est nécessaire, les envoyer vers un conseil ou un avocat lorsque c'est nécessaire, ou encore les envoyer vers les bons canaux de médiation ou de justice dont ils ont besoin. Donc c'est quelque chose de concret, c'est quelque chose de pratique qui n'existait pas jusqu'aujourd'hui et qui va permettre de faire en sorte que les personnes qui sont discriminées, qui parfois ont le sentiment que c'est pas la peine de déposer plainte, que c'est pas la peine de se manifester parce que personne ne s'en occupera, eh bien aujourd'hui il y aura quelqu'un qui se saisira de ces questions-là et qui fera en sorte qu'ils soient entendus.
Emmanuel Macron avait cité sur la question des discriminations quelque chose qui est beaucoup dénoncé dans les quartiers populaires, ce qu'on appelle les contrôles au faciès. Le président en a parlé. Il y a un problème avec les contrôles de police. Selon vous, ils peuvent être facteurs de discrimination ?
Bah, malheureusement, c'est une vérité. Vous savez, il y a beaucoup de jeunes que j'entends, que je rencontre, que les associations nous remontent également. Beaucoup de jeunes qui disent que parce que ils sont noirs ou parce qu'ils sont maghrébins, ils se sentent plus contrôlés que la moyenne.
Ils pourront le dénoncer sur cette plateforme, par exemple ?
Eh bien, justement, c'est cette fameuse convention citoyenne que nous allons également mettre en place, parce que nous connaissons les discriminations dans notre pays, mais nous ne les connaissons peut-être pas toutes. Et l'idée de cette convention citoyenne que nous allons lancer, c'est permettre à tous les Français, que ce soit ceux qui sont discriminés, mais également ceux qui ne le sont pas, de pouvoir parler de ce sujet de la discrimination et de pouvoir nous apporter un autre regard et d'autres idées sur la manière dont nous pouvons nous en saisir, parce qu'encore une fois, la question des discriminations ne concerne pas que les personnes discriminées, elle concerne toutes les personnes de notre pays. Moi, ce qui est au cœur de mon ministère aujourd'hui, c'est le sujet de l'égalité et je m'appuie toujours sur l'article 1 de notre Constitution de 58 qui dit que tous les êtres naissent libres et égaux en droit et notre responsabilité, c'est de faire en sorte que tous nos citoyens aient accès aux mêmes droits et qu'ils soient traités de la même manière et qu'il n'y ait pas de citoyens de seconde zone.
Merci.
C'est ce pourquoi nous nous battons aujourd'hui.
Merci beaucoup Elisabeth Moreno, ministre déléguée en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes, en charge de la diversité et de l'égalité des chances. Merci d'avoir été mon invité politique ce matin, 8h27 sur Europe 1.
Europe Matin, le 7-9, Sébastien Krebs.
Il est 8h30 sur Europe 1, un nouveau point sur l'info tout de suite avec Émilie Dèze.
Et des millions d'Américains comptent sur cette aide votée par le Congrès américain, 900 milliards de dollars pour soutenir les familles et les entreprises durement touchées par la pandémie de coronavirus. Un plan qui prévoit des chèques pour les plus fragiles ou des allocations chômage supplémentaires. Les États-Unis, pays le plus durement touché par le Covid hier, le président élu Joe Biden s'est fait vacciner en direct devant les caméras de télévision. En France, la campagne de vaccination doit débuter dès ce week-end. Le vaccin Pfizer-BioNTech vient de recevoir le feu vert de la Commission européenne. Il devrait être efficace contre la nouvelle souche du virus détectée au Royaume-Uni. Le Royaume-Uni sous cloche depuis dimanche minuit. Plusieurs pays, dont la France, ont suspendu toutes les liaisons avec le territoire britannique. Des dizaines de camions sont bloqués côté anglais. L'Union européenne doit tenter aujourd'hui d'harmoniser les mesures de restriction prises dans chaque pays. On est toujours sans nouvelles de Delphine, cette infirmière de 33 ans disparue il y a presque une semaine maintenant. Les recherches sont pour l'instant infructueuses. Elles doivent reprendre ce matin. Delphine a disparu après avoir quitté son domicile de Cagnac-les-Mines dans le Tarn dans la nuit de mardi à mercredi dernier. Gladys Laffitte.
Oui, Delphine aurait disparu vers 2h du matin. Elle serait partie à pied, en pleine nuit, avec ses deux chiens. Deux chiens qui sont revenus seuls à la maison vers 4h du matin. C'est son mari qui a signalé sa disparition dès mercredi matin, voyant qu'elle n'était pas à leur domicile. Depuis, les recherches n'ont pas cessé pour tenter de retrouver cette infirmière de 33 ans. Les alentours de cette commune près d'Albi sont ratissés de long en large par les gendarmes. Entre 50 et 80 militaires mobilisés qui organisent des battues avec des chiens, fouillent aussi tous les points d'eau à l'aide de plongeurs. Des hélicoptères et des drones ont aussi été envoyés en renfort. C'est dire les moyens déployés pour retrouver cette mère de deux jeunes enfants de 6 ans et 18 mois. Le parquet d'Albi a ouvert une enquête pour recherche des causes d'une disparition suspecte et pour le moment toutes les hypothèses sont sur la table. Celle du suicide, celle de la disparition volontaire, mais aussi la piste criminelle. Rien n'est pour le moment écarté par les enquêteurs.
Gladys Laffitte pour Europe 1. Une enquête ouverte pour incitation à la haine raciale après les tweets antisémites qui ont visé Miss Provence, des commentaires apparus quand la jeune femme a révélé que son père était d'origine israélienne. L'antisémitisme reste un fléau qui doit tous nous concerner, a affirmé ce matin Elisabeth Moreno, la ministre chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes sur Europe 1. Et puis, ils sont quelques-uns, des Français, à vouloir braver l'interdit pour aller dévaler les pistes en Suisse pour Noël. Hélène Terzian, vous êtes ce matin à un poste frontière entre la France et la Suisse, très exactement à la Ferrières-sous-Jouves dans le Doubs, où la police est en train de contrôler les véhicules.
Oui, et pour les policiers Olivier et Quentin qui sont au poste de douane depuis 5 heures ce matin, eh bien il s'agit surtout de discerner parmi le flot de travailleurs transfrontaliers qui passent ici tous les jours, des vacanciers, donc des familles ou des groupes d'amis.
On voit rapidement s'ils partent en vacances ou pas. Hein. Bonjour messieurs.
Bonjour.
Vous allez au travail?
Oui.
Pas de vacances, rien?
Non, pas encore. Ce soir.
Okay. On regarde s'il y a des sacs, s'il y a du matériel de ski éventuellement, et voilà.
C'est tout bon,
allez-y.
Les contrôles sont aléatoires et pour le moment seulement à visée pédagogique. La police distribue un flyer de temps en temps pour rappeler les gestes barrières. Mais Gérald Darmanin, le Premier ministre, a donné l'instruction, disons, de serrer la vis à partir de ce week-end. Puisqu'il faudra, en cas de contrôle, et si vous êtes manifestement de retour des stations suisses, montrer un test de moins de 72 heures. C'est ce que m'explique Jean-Michel Comte, directeur interdépartemental de la police aux frontières Bourgogne-Franche-Comté.
Au retour des stations, ils se doivent de prouver qu'ils n'ont pas le virus, par tout moyen. Et s'ils ne peuvent pas le prouver, l'agence régionale de santé présente en frontière leur fera un test pour leur indiquer, 72 heures plus tard, s'ils sont impactés par le virus. Auquel cas, ils devront s'isoler.
En tout cas, ici, pour l'instant, depuis ce matin, à la Ferrières-sous-Jougne, aucun véhicule de vacanciers français n'a été soupçonné de vouloir rejoindre les stations suisses.
Hélène Terzian depuis un poste frontière dans le Doubs.
C'était le journal d'Émilie Dez, il est 8h35 et on retrouve Laurent Cabrol pour un nouveau point sur cette météo qui va donc se rafraîchir pour Noël, Laurent.
Ah, elle va se rafraîchir, oui, mais dans les jours à venir. Aujourd'hui, ce sera vraiment une journée printanière pour certains d'entre nous, notamment dans le sud-ouest, sur la région Rhône-Alpes et le bassin méditerranéen, où le temps sera souvent ensoleillé et très doux, entre 17 et 19 degrés. Sur le Poitou-Charentes, le Limousin, l'Allier, la Nièvre et la Franche-Comté, c'est une amélioration constante et progressive qui va se déployer tout au long de la journée, avec des températures de 15 à 17 degrés. Et puis ailleurs, le temps sera maussade sur la Manche, sur la région parisienne, sur la Bourgogne, l'Orléanais, les Pays de la Loire, la Champagne, les Ardennes, la Lorraine et l'Alsace. Dans ces contrées, y compris sur Paris, prévoyez quand même des pluies assez fréquentes. Demain, ce sera une journée, disons, de transition, pas trop désagréable. À partir de la fin de semaine et surtout pour le soir de Noël, eh bien, les températures vont dégringoler, comme je disais tout à l'heure, et nous arriverons à des températures de saison, c'est-à-dire à un vrai Noël avec du froid, des températures vraiment froides, et puis des chutes de neige à basse altitude. Et même en pleine, dans les régions de l'Est, notamment sur la Franche-Comté, la région Rhône-Alpes et sur l'Auvergne.
Laurent Cabrol, merci. 8h36. Et le docteur Jimmy Mohamed m'a rejoint. Bonjour Jimmy.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
À cette heure-ci, on prend soin les uns des autres chaque matin avec vous. C'est notre santé. Et vous allez nous aider à booster notre bonne humeur. On est fatigué en cette fin d'année. On va booster notre sérotonine.
Oui, alors la sérotonine, c'est une hormone qui est très importante. Elle est impliquée dans la régulation de l'humeur. Et on le sait notamment, lorsque vous avez un traitement antidépresseur, on va chercher à augmenter ce taux de sérotonine dans le cerveau. Elle est impliquée aussi dans l'appétit, la digestion et même dans l'activité sexuelle. Alors, cette sérotonine, mélatonine, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle est fabriquée à 90% dans notre intestin et dans notre estomac. Et elle n'est présente qu'à 1% dans le cerveau. Donc elle est peu présente dans le cerveau, mais elle est extrêmement importante. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que pour fabriquer de la sérotonine, on la fabrique à partir du tryptophane. Le tryptophane, c'est ce qu'on appelle un acide aminé. Un acide aminé, c'est un petit Lego, comme une protéine, qui va permettre de synthétiser la sérotonine. Sauf que ce tryptophane, le corps, il ne peut pas le fabriquer lui-même. On peut l'avoir simplement au travers de l'alimentation. Et donc, on pourrait peut-être booster notre humeur en faisant attention à ce qu'on mange.
En faisant attention à ce qu'on mange, alors quels sont ces aliments qui sont riches en tryptophane ?
Alors, vous allez voir, il y en a quand même pas mal. Et vous allez dire, mais la liste, elle est longue. Comment ça se fait que je ne suis pas aussi de bonne humeur que vous, Sébastien ? Mais je vais vous expliquer pourquoi. Alors, vous en trouvez dans les graines de sésame, dans la pistache, dans la mozzarella, dans le poulet, dans le thon, dans le crabe, dans les lentilles, dans les œufs, dans les légumineuses. Donc, vous avez vu, il y en a un peu partout. Mais le problème, c'est que si vous avez ces apports, car la liste que je vous ai donnée, finalement, on la mange tous, on n'a pas un régime très restrictif, eh bien le problème c'est que si à l'inverse, vous avez une alimentation déséquilibrée, avec des produits industriels, des produits transformés, eh bien l'inflammation va empêcher la formation de tryptophane en sérotonine. Ça veut dire que vous avez beau apporter tout ce qu'il faut, si derrière on fait un petit peu n'importe quoi, eh bien on ne va jamais synthétiser cette sérotonine et donc on sera peut-être un peu trop déprimé. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il faut éviter de manger trop gras, trop sucré ou trop salé.
Voilà, tout va ensemble, tout va ensemble. Pistache, mozzarella.
Alors, l'association est un peu étrange, mais vous pouvez le faire le matin ou le soir. Mais voilà, en gros, c'est une alimentation variée, équilibrée. Et le brocoli aussi.
Avant et après Noël, parce qu'on va quand même s'autoriser quelques écarts. Jimmy Mohamed pour notre santé chaque matin à 8h38.
Europe Matin, le 7-9, Sébastien Krebs.
La culture est essentielle et c'est un mot d'ordre auquel Europe 1 s'associe et défend en cette période de fête. Chaque matin, nous sommes avec deux artistes en direct et ce matin, j'accueille la comédienne Stéphie Selma. Bonjour.
Bonjour, merci de me recevoir.
Merci d'être avec nous. On vous a découvert dans 10%. Vous étiez Sophia, l'hôtesse d'accueil devenue ensuite comédienne. Vous avez depuis sorti votre premier single, on va l'écouter tout à l'heure. Vous connaissez Riyad Satouf ?
Oui, bien sûr. J'ai pas eu l'occasion de le rencontrer, mais je le connais de nom et je connais son travail, bien sûr.
Succès planétaire pour l'Arabe du futur, bien sûr. Bonjour Riyad Satouf.
Bonjour.
Bienvenue à vous aussi sur Europe 1. Votre tome 5 de l'Arabe du futur est sorti récemment. Alors vous connaissez le principe, tous les deux, vous allez nous conseiller, nous donner chacun vos coups de cœur culturels pour ces fêtes de fin d'année. Que mettons sous le sapin ? Stéphie Selma, tiens, on commence par vous.
Oui. Alors moi, en ce moment, je suis très très musique et j'écoute une artiste qui m'apaise énormément, qui s'appelle Loubiana, qui a sorti un EP magnifique et je vous conseille vraiment d'écouter. C'est une jeune femme qui joue de la kora, qui est un instrument qui est à la base plutôt joué par des hommes et qui a une voix extraordinaire. Donc vraiment, je vous la recommande sans plus tarder.
Ben, on l'écoute. Voilà pour cette découverte conseillée par Stéphie Selma. Loubiana avec cet instrument dont vous parliez, la kora, qui est un instrument originaire d'Afrique. Riyad Satouf, ça vous plaît ?
Oui, j'aime beaucoup. Oui, oui.
Vous connaissiez ?
Pas du tout. Alors absolument pas.
Et ben voilà, une découverte. Loubiana à écouter pendant les fêtes. Votre conseil, c'est à vous, Riyad Satouf.
Alors moi je vous conseille un beau livre qui est sorti il y a quelques semaines d'un de mes artistes préférés français. Je pense que c'est un des plus grands artistes français et qui gagne à être encore plus connu qu'il n'est. C'est un beau livre qui s'appelle Chronique de la rue du repos et c'est un livre du Tempographe. Alors le Tempographe c'est un artisan qui travaille à Paris et qui fait des tampons vulgaires, drôles et esthétiques. Et donc c'est une sorte de gros recueil de textes déprimants, hilarants et d'images complètement étranges et ultra drôles. Donc je vous conseille d'aller voir sur internet. D'ailleurs son site est génial, c'est difficilement descriptible, mais alors il a sorti un livre qui est vraiment magnifique chez Flammarion. Et voilà, moi je vais l'offrir à tout le monde à Noël.
Vincent Sardon, Chronique de la rue du repos, qu'est-ce qui vous plaît dans ces visuels ? Ce sont des dessins ?
Alors, c'est difficile à expliquer. C'est à la fois des dessins, c'est à la fois des textes. Il fait, par exemple, des séries de tampons qui sont des tampons d'insultes de tous les pays, par exemple, qui il traduit des insultes japonaises en français, des insultes communistes, je sais pas. Donc, c'est des espèces de petits objets extrêmement bien faits que vous pouvez acquérir, bien sûr, aussi sur son site, mais qui sont aussi extrêmement... C'est des objets extrêmement beaux à voir. Et donc, il en a fait des photos, il les a compilées dans son livre avec des textes sur sa vie dans son atelier où il est tout seul, etc. C'est vraiment, je pense que ça parle extrêmement bien de notre époque et du monde moderne.
Et on découvre à cette occasion ce qu'est un tampographe. Avec vous, Riyad Satouf, vous avez dessiné cette année, Riyad Satouf, pour Reporters sans frontières, l'album Sans dessin pour la liberté de la presse. Gros succès, je crois que tout a été vendu.
Oui, alors je crois que oui, en effet, ça a été très bien, très, très bien accueilli par les lecteurs. Et c'était un honneur pour moi de que Reporters sans frontières choisisse mes dessins pour leur album de l'année. Donc j'étais très heureux de ce succès.
C'est une cause
tous les bénéfices sont reversés bien sûr à Reporters sans frontières.
Et c'est une cause de la liberté de la presse qui vous tient à cœur.
Ah oui, bien sûr, oui, la liberté d'expression, c'est la chose la plus importante. Elle existe encore en France, alors qu'elle disparaît partout autour de nous. Et donc, c'est vrai qu'il faut essayer de tout faire pour la préserver.
Stéphie Selma, vous lisez Riyad Satouf, l'Arabe du futur, vous les avez lus?
Malheureusement, pas encore, mais c'est vrai que je vais m'y mettre.
2 millions d'exemplaires vendus pour l'Arabe du futur, qui a été traduit en 22 langues. Stéphie Selma, je le disais, donc depuis la série 10%, vous avez sorti votre premier single.
Oui, Maison de terre.
On va en écouter un morceau.
Oui, merci beaucoup.
Maison de briques, maison de terre, charpente les routes en bicyclette. Chercher les amants de mes rêves que je laisserai. Être heureux sans en avoir l'air, je suis un homme solitaire. Les yeux qui brillent pour des bricoles, la jeunesse.
Maison de terre, voilà pour votre single, Stéphie Selma. Qu'est-ce qui vous a inspiré? Qu'est-ce qui vous plaît dans la musique?
Ce qui me plaît dans la musique, c'est évidemment le partage, la créativité. C'est vrai que moi, je suis comédienne. La musique m'a amenée à jouer la comédie et fait partie de ma vie depuis toujours. Et cette chanson a été composée lors du premier confinement en mode homemade. Et voilà, l'idée, c'était de donner un peu de soleil. Des influences un peu, on va dire, bossa nova, capverdienne. Chanson française, voilà.
Un peu de soleil et un peu de voyage aussi, avec un joli clip qui accompagne cette chanson, que vous avez tourné où?
Merci. On a tourné ce clip à Lisbonne avec un réalisateur qui s'appelle Ruben Alves, dont j'adore le travail et avec qui j'avais eu l'occasion de travailler sur un film qui s'appelle Miss. Et d'ailleurs, j'espère qu'il va pouvoir sortir ce film magnifique.
Voilà, ça s'appelle donc Maison de Terre et c'est votre premier single. Je rajoute cette information, tiens, je vais voir si ça vous plaît à tous les deux, parce que c'est un petit événement pour tous les fans de Daft Punk. Alors, on a changé de style. Le duo Electro a sorti, dans la plus grande discrétion, 9 nouveaux titres. C'était pas arrivé depuis 2013. Vous les trouvez sur une réédition de la bande originale du film Tron Legacy, disponible sur les plateformes. Ils ont sorti également des vinyles qui sont déjà en rupture de stock. Vous aimez tous les deux Daft Punk?
Ah oui, moi évidemment. J'adore, personnellement.
voilà, je vous invite à écouter ces nouveaux titres. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous ce matin. Stéphie Selma, Riyad Satouf.
Merci pour l'invitation.
Merci beaucoup.
Il est 9h moins le quart.
Merci.
Europe Matin, le 7-9, Sébastien Krebs.
8h48 sur Europe 1 et je salue Bertrand Chamerois. Bonjour Bertrand.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
Chaque jour pendant les fêtes, vous nous proposez la rétro 2020, mais à votre manière.
Évidemment. De quoi vous parle-je ce matin? Ne faites pas l'innocent. Vous savez très bien, Sébastien, hier je vous ai quitté avec les vœux 2019 de Macron. Donc aujourd'hui, je sais que personne n'a envie de remuer ses souvenirs encore à vif, mais je suis là pour ça, pour mettre de l'alcool à 90 sur les plaies afin de mieux les soigner. Allez, on respire tous un grand coup, ça va bien se passer. Aujourd'hui, jour 2 de cette rétro 2020, attention, je vais arracher le sparadrap, on parle du Covid.
Ah non.
Voilà, bah, ça y est, c'est dit, autant expédier le sujet aujourd'hui, on se sentira beaucoup mieux après, donc direction cette époque qui s'appelle Rio, le début du boxon, janvier 2020.
Près de 140 nouveaux cas et un troisième mort. Le nouveau virus apparu en Chine le mois dernier s'étend à travers tout le pays.
Ah que c'est bon de réentendre ces archives, janvier. Ah c'était le bon temps, c'était celui de la légèreté, on se disait bon quoi, c'est en Chine, c'est loin la Chine. Déjà l'Ukraine ça paraît loin, mais alors t'imagines la Chine. Vous n'avez pas les images, hein, mais sur la vidéo de l'extrait que vous venez d'entendre, Marion Calais et l'animateur de la matinale de l'époque sont tout sourire, ils se doutent de rien. Il s'appelait comment d'ailleurs ce type qui présentait la matinale à l'époque?
C'était pas si loin, il va revenir, Mathieu Béliard.
Ben, qu'est-ce que vous racontez? Non, je pense pas. Non, non, sur la vidéo, on voit un monsieur rasé de près avec des cheveux courts. Ça me paraît difficilement possible que ce soit Mathieu.
Ah, oui.
C'était en janvier. C'était avant le confinement, d'où le look de premier communiant. Parce que je peux être bête parfois, autant pour moi, je reprends. Je disais donc que tout paraissait si loin à l'époque. Le virus n'avait pas encore de nom. On parlait de virus chinois dans les médias. Certains rendaient hommage à Michel Leb, comme le courrier Picard qui, dans un élan de bon goût, avait titré « Alerte jaune ». Peu de temps après... Ah oui, il l'avait fait. Peu de temps après, on a découvert le petit nom de ce virus, le coronavirus. Et là, on s'est marré. Oh, qu'est-ce qu'on s'est marré? On était là, hé, hey, corona, coronavirus, on dirait une marque de bière. C'est trop drôle. Allez, je retweet. Et dans nos soirées, on diffusait ce titre. Ah oui. The Rhythm of the Night de Corona, on était dans l'actu, on se marrait, on était joyeux comme tout. En plus, la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, rassurait les plus anxieux.
Le risque d'importation de cas depuis Wuhan est modéré. Il est maintenant pratiquement nul.
Bon, après, ça a commencé à sentir un poil mauvais. Ah, on file à Taïwan, premier cas hors de Chine. Pardon, je vous coupe, cas au Japon. Hop là, nouveau cas en Corée du Sud, aux États-Unis, etc., etc., jusqu'à arriver au 24 janvier dans nos tronches, en France. Mais il en fallait plus pour nous démoraliser. On est français, nous. Vous croyez qu'on va fermer les écoles pour une grippette? Oh, l'autre. Et pourquoi pas rester chez nous pendant qu'on y est? Vous nous avez pris pour des ritales ou quoi? C'est bon, on a arrêté de se serrer les paluches. On peut continuer à faire notre vie. Buvons des coups, célébrons le carnaval de Dunkerque. Allons voter au municipal. Et c'est ainsi que le 16 mars, au lendemain du premier tour...
Dès demain, midi, et pour 15 jours au moins, nos déplacements seront très fortement réduits. Nous sommes... en guerre.
Tiens, tout a changé ce matin. Je n'y comprends rien. C'est la merde. La merde. Oui, j'ai un petit brin de voix. À l'époque, Emmanuel Macron, c'était sa première fois. Il était tout timide. Il n'osait pas prononcer le mot tabou de confinement. Il laissait ça à Édouard Philippe et Castaner. Ah, le confinement, que de souvenirs. Alors attention, hein, je parle du deuxième. Je dis volontairement deuxième et pas second, parce que vous le savez, second, c'est quand il n'y a pas de suite. Non, je parle du premier confinement, le vrai, celui où on applaudissait le personnel soignant à 20h aux fenêtres, tout en profitant pour espionner les voisins. Celui où l'on expérimentait le pain au levain, certains se découvraient une passion soudaine pour le jogging. Celui où on faisait connaissance avec le télétravail, les apéros en visio, et cette douce sensation, après avoir discuté sans rien entendre avec ses amis pendant des heures, de se retrouver seul, errant au milieu du salon, passablement ivre, sans but, n'est-ce pas Sébastien? Le premier confinement, c'était celui où la nature avait repris ses droits, vous vous souvenez? On entendait des oiseaux dans Paris,
c'est vrai.
Des merles, des corbeaux, des mouettes, des moineaux, mais aussi des oiseaux de mauvais augure.
Ceux qui sont aujourd'hui hospitalisés, ceux qu'on trouve dans les réanimations, désormais aujourd'hui, ce sont ceux qui, au début du confinement, ne l'ont pas respecté. C'est très simple, il y a une corrélation très simple.
Ah, Didier l'Allemand, Dédé la déconne, comme j'aime à l'appeler. Hein. Ben quoi, il inspire la bonhomie, vous trouvez pas? Ah, moi, c'est plus fort que moi. Dès que je le vois avec sa tête de croque-mort et son képi trop grand acheté au roi de la fête, j'ai envie de le prendre dans mes bras et de frotter mon poing sur son cuir chevelu en lui lançant des « Ah, mon Dédé !» Heureusement que t'es là pour mettre l'ambiance quand il n'y en a plus, là. Sacré toi, va. Ah, c'était folklore, hein, le premier confinement. On a découvert des comportements, disons, très français.
Dès l'annonce du confinement par la présidence, les Françaises et les Français se sont précipités dans les supérettes afin de faire des provisions de papier hygiénique, mais également de produits de première nécessité pour se nourrir entre les heures de télétravail en famille. Pâtes, riz. D'autres se sont engouffrés dans leur automobile pour s'exiler à la campagne. Ce mois de mars signe également le grand retour d'une vieille tradition, la délation. Les standards de la maréchaussée ont été submergés d'appels de voisins désireux de dénoncer leurs concitoyens ayant pris le maquis. Ah vraiment, parfois le 20h avait des airs d'actualité pâtée. Et puis cette histoire de course, franchement, ok, aller au supermarché était une des rares choses autorisées. J'étais moi-même personnellement devenu le Omar Sharif du confinement, hein, les courses, c'était vraiment ma grande passion. Mais pourquoi faire autant de stocks? Je sais bien que Macron avait dit « nous sommes en guerre », mais c'était une image. On a entendu de ces témoignages dans les JT devant les supermarchés.
Vous avez fait plus de courses que d'habitude ou pas?
J'en sais rien, j'ai pris n'importe quoi.
On n'était pas vraiment en guerre, hein. C'est pas le virus qui nous tuera, hein. C'est le premier degré, Sébastien, je vous le dis. Allez, promis, demain, je m'y engage solennellement, on parlera d'autre chose, si vous êtes
sage. Vous avez fait des stocks de farine ?
Évidemment.
Bien sûr. Bertrand Chameroy pour la Rétro 2020, chaque jour à 9h-10. Bonne journée, à demain, Bertrand.
À demain.
À suivre, Philippe Vandel sur Europe 1. Très belle journée à vous tous. Je vous retrouve demain dès 5h. Mathieu Charrier pour le 7-9 demain. D'ici là, le monde aura changé. On va vous le raconter. Bonjour Philippe Vandel.
Ah bonjour.
Ah voilà, voilà. Ah bah, vous n'étiez pas là. Ah. Quel est le programme de Culture Média?
Et bah, en général, bah, c'est à 56 déjà le programme. Donc là, il est 8h55. Donc je vois que vous êtes très très pressé d'en finir et de partir en week-end. Notre info média du jour.
Non, pas encore.
On va parler de l'influence des réseaux sociaux. On parlait en particulier de la plateforme TikTok sur l'industrie musicale. Vous connaissez TikTok?
Oui, bien sûr.
Bien sûr, c'est pour les jeunes. C'est la plateforme chinoise qui cartonne et qui a révolutionné l'industrie du disque. Aux États-Unis, on sera avec un journaliste musical du site Les Jours, qui s'appelle Sofiane Fanen. Au sommaire également, on va parler de tout le sport sur France 3. Fabien Lévesque, le présentateur qui sera avec nous, va recevoir plein de champions français, Florent Manaudou, Eugénie Le Sommaire ou encore Thierry Omeyer. Et puis l'ami Laurent Mariotte, qu'on connaît bien ici dans Culture Média, il va nous présenter son guide indispensable. Ça s'appelle « Mieux manger toute l'année ». Je l'ai dans le sac, ça fait 2,5 kg, ah, et oui, encore je l'ai désossé.
A tout de suite, Philippe Vandel, Culture Média.
J'ai oublié de dire qu'il y aura aussi Bertrand Chameroy sur le coup de 10h03 ou 4 ou 5.
Bon, oui, on va dire 3, allez, je vous la fasse.
Vous restez dans le coin alors. Bonne journée, Philippe Vandel, dans un instant. Bonne journée.